Arabe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Bonsoir, bienvenue à bord dans quelques instants et jusqu'à 20h, Europe Soir Weekend, décryptage, débat, interview autour de sujets qui font l'actualité. Mais pour le moment, Europe 1, il est 18h. À la une ce soir, l'Australie va verser une compensation de 555 millions d'euros aux fabricants de sous-marins français Naval après la rupture d'un gigantesque contrat en septembre dernier. Première nuit en prison pour le collégien de 14 ans qui a avoué le meurtre de sa petite amie jeudi dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. Viendra, viendra pas, le feuilleton autour de l'arrivée de Zidane en tant qu'entraîneur au PSG agite la planète foot. Et puis les 24 heures du Mans, 90e édition, c'est parti depuis 2 heures, une course d'endurance aussi pour le peintre officiel de l'épreuve, éclairage à la fin de ce journal.
Europe 1.
555 millions d'euros, c'est donc le montant de la compensation qui sera versée par l'Australie aux fabricants de sous-marins français Naval Group. En septembre dernier, les Australiens avaient annulé un contrat de 56 milliards d'euros portant sur une commande de 12 sous-marins. Et ce matin, Naval Group salue un accord équitable au CNTR.
Oui, c'est le terme employé par le constructeur français dans ce communiqué de quelques lignes. Naval Group précise qu'il a accompagné ses sous-traitants français et australiens et remercie celles et ceux qui ont travaillé pendant 5 ans sur le chantier. Du côté des syndicats de salariés, justement, on parle d'une bonne décision qui va permettre de tourner enfin la page du dossier australien, même si dans les esprits, l'amertume et le souvenir de ce contrat avorté restent encore vifs, explique Olivier Tesser. Il est délégué syndical CFE-CGC de Naval Group.
Oui, c'est des mois de travail, des investissements. On a eu un client très difficile. Les équipes étaient vraiment, vraiment à cran et n'ont pas démérité. Hein. Les personnels étaient très, très investis sur ce contrat. Après, on a trouvé, enfin, la direction a trouvé un deal. Hein. C'est un contrat de sortie définitive avec, je pense, un dédommagement. On pourra tourner la page.
Passer à autre chose avec un espoir quand même, explique Olivier Tesser, c'est qu'une partie de cette somme, de ces millions d'euros, aille aux employés de Naval Group qui ont travaillé pendant des mois à la construction de ces 12 sous-marins.
Océane Théard. Alors, il vient de passer sa première nuit en prison. L'adolescent de 14 ans qui a avoué le meurtre de sa petite amie à Clessé en Saône-et-Loire a été mis en examen et écroué. Un acte d'une violence inouïe pour un garçon aussi jeune qui pose question. Nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants avec le pédopsychiatre Jean-Marc Benkemoun. En attendant, Jean-Luc Boujon, cet assassinat ressemble fort à un guet-apens.
Hier, en garde à vue, le garçon a expliqué que son geste n'était pas une impulsion soudaine suite à une dispute, mais un acte prémédité. Il y a d'abord ce rendez-vous en pleine nuit en cachette de leurs parents, une habitude pour tous les deux qui n'éveille pas le soupçon de la jeune fille. Il y avait eu quelques heures auparavant cet entraînement au maniement du couteau, comme il l'a raconté aux enquêteurs. Un garçon qui en outre vivait dans un contexte familial instable, sur fond de séparation parentale. Un contexte violent aussi. Il y a plusieurs mois, il était arrivé au collège avec des points de suture sur le haut du crâne. Conséquence, avait-il alors expliqué à ses copains, de coups de marteau que lui avait porté son père. Un recours à la violence d'un adolescent encore très jeune qui interroge les habitants comme Julie, surtout dans un petit village calme et prospère comme Clessé.
C'est effrayant parce qu'on se dit que c'est juste près de chez nous et qu'en cas de conflit, il peut arriver quelque chose de grave à nos enfants. Quoi. C'est vraiment abominable à cet âge-là d'être capable de faire du mal. Je comprends pas, c'est un geste et pas anodin. Je veux dire, il faut une certaine force, il faut la démarche. Si effectivement, même dans la campagne, on a des enfants qui ont assez de haine pour réussir à faire ce genre de gestes, effectivement, ça fait peur.
Le garçon a été écroué hier dans une prison pour mineurs. Pour ces faits, il risque une peine maximale de 20 ans de réclusion. Clessé, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Bonsoir Jean-Marc Benkemoun, merci de nous accorder quelques
Bonsoir.
Minutes ce soir. Alors, je le rappelle, vous êtes pédopsychiatre, médecin légiste et expert judiciaire. Et l'expert, justement, qui a examiné ce jeune garçon a conclu à une altération importante du discernement sans abolition. Est-ce que l'on peut parler de féminicide malgré le très jeune âge du collégien? En gros, est-ce que c'est un crime d'adulte commis par un ado?
Alors, bon, c'est difficile de parler d'une personne qu'on n'a pas examinée, surtout quand l'affaire est en cours. Alors, je vais vous parler d'une façon générale. Les féminicides, ce n'est pas reconnu dans le code pénal français. Ça vient dans d'autres pays, mais c'est quand même utilisé, hein, et vous l'avez vu, par certains politiques, par certains ministres, par les féministes, etc., et parfois aussi par les experts. On peut retrouver une définition plutôt précise, c'est-à-dire que c'est le meurtre d'une femme ou d'une fille. Il n'y a pas d'âge défini dans la définition, en raison de son sexe. Bon, il faut théoriquement que l'agresseur ait une relation avec la jeune femme, que celle-ci soit en état de dépendance ou d'emprise, avec notamment des menaces, etc., qu'il y ait un lien pathologique entre les deux, et en tous les cas, ce lien pathologique dans le cadre d'une comment on pourrait dire, d'une relation sentimentale. Bon, le type d'acte aussi intervient dans la définition des actes avec grande violence, voilà, centré surtout sur le contrôle et l'empêcher l'autre de parler. Donc si ce que décrit le procureur de la République, si on prend dans l'absolu l'acte tel qu'il est décrit, je pense que, alors, il va falloir bien entendu que la justice détermine si cet acte rentre dans le cadre de la relation affective. Si l'acte rentre dans le cadre de la relation affective, vu la définition qu'on en fait, effectivement, il pourrait s'agir d'un féminicide.
Alors, le climat de violence qui régnait, semble-t-il, dans sa cellule familiale, est-ce que, selon vous, ça peut générer des circonstances atténuantes compte tenu, là encore, de son âge ?
Alors, c'est un adolescent, 14 ans, c'est un adolescent. La personnalité est en cours de construction. On ne parle pas de personnalité à l'adolescence. Les études de neuropsychologie, pour faire simple, amènent à considérer que le cerveau n'a pas les compétences cognitives, le cerveau de l'adolescent, et notamment discernement, d'anticipation des conséquences des actes, etc., qu'un cerveau adulte, avant 18, 20, voire 25 ans. Donc c'est important de reconnaître cette vulnérabilité et cette fragilité. D'ailleurs, la loi, enfin la sanction, etc., l'action judiciaire est adaptée à cette vulnérabilité. Moi, je pense qu'effectivement, la maltraitance, la pornographie peut engendrer chez les adolescents des troubles du comportement. Et je me bats, avec d'autres bien entendu, mais c'est une de mes batailles, d'essayer de convaincre nos décideurs de prévenir la maltraitance, de repérer les enfants sans danger ou en risque de danger. Parce que la délinquance, pour moi, la délinquance juvénile, est jusqu'à preuve du contraire un symptôme de la maltraitance. Et ne plus permettre aux sites pornographiques d'être accessibles aux enfants et aux adolescents, parce qu'en fait, ça donne une idée terrible de la femme, ces sites pornographiques, et ils n'ont pas la capacité, je crois, psychique, en tous les cas, de discerner que ça ne s'inscrit pas dans la réalité, etc. etc.
Il y a d'ailleurs des procédures en cours pour justement interdire l'accès aux mineurs auprès des fournisseurs d'accès. C'est en cours.
À moi, c'est des procédures en cours. Ça fait un temps infini qu'on en parle. De la même façon qu'on parle de prévenir les violences faites aux femmes, qu'on parle de prévenir de la maltraitance. Mais je vous certifie que sur le terrain, en tant que pédopsychiatre, et puis avec d'autres professionnels, moi, je suis quelqu'un d'engagé, mais je ne suis pas un militant. Mais en tous les cas, en tant que pédopsychiatre, on voit assez peu les effets d'annonce depuis de nombreuses années. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, en fait.
Bah écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Benkemoun pour cet échange ce soir. Nous avons accordé quelques minutes en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.
Bon courage, au revoir.
Alors dans le procès des attentats du 13 novembre maintenant, la perpétuité incompressible a été requise contre Salah Abdeslam par le parquet national antiterroriste. Un réquisitoire de 15 heures pour un procès hors norme. 9 mois d'audience portés par le témoignage de 400 parties civiles. Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris, était l'invité de Stéphane Place dans la matinale d'Europe 1. Il nous a confié son soulagement.
Ce qui a été répété plusieurs fois par les avocats généraux, c'est qu'ils cherchaient la peine maximale prévue dans le code pénal. Et ça me parle. C'est de dire qu'on est au summum de la gravité de ce qui peut être commis, qu'on est au summum de la barbarie, et que donc face à ça, on utilise toute la force de la loi. Et moi, c'est plus ce message-là que le quantum exact qui m'apparaît comme important. Mais ça a aussi été l'occasion de regarder en détail ce qui nous était arrivé, de rentrer dans la mécanique qui a abouti à ce qu'on devienne victime. Et moi, en tout cas, je me suis retrouvé quelque part en suivant toutes ces audiences. J'ai l'impression d'avoir fait le deuil de ce que j'étais avant et d'être prêt à avancer. Et donc, le procès a aussi cette vertu-là. Le procès, il est là pour juger les accusés. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, il a été bénéfique dans ma capacité à me projeter dans l'avenir.
Allez, ne bougez pas dans quelques instants. Évidemment, on continue avec la deuxième partie et le feuilleton Zidane qui rebondit encore. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.
Allez, 18h11, la suite de votre journal sur Europe 1. Zidane sera-t-il l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine? La question reste en suspens. Vendredi, nous vous révélions en exclusivité sur Europe 1 qu'un accord de principe aurait été trouvé avec les dirigeants qataris. Depuis, son entourage, tout comme le PSG, ont refusé de confirmer ou d'infirmer cette information. Son agent, lui, a démenti. Le feuilleton n'a pas fini de rebondir. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Jacques Vendroux.
Zidane, pour le moment, a sans doute très très envie de venir au Paris Saint-Germain et il souhaite avoir ce qu'on appelle des garanties. Parce que Zidane, il ne fait jamais les choses à moitié. Donc il vient, il est le super patron, il prend les adjoints qu'il veut. Et ce qui est important aussi dans le cas Zidane, c'est que Zidane, lui, va venir avec ses préparateurs physiques, avec ses préparateurs mentaux, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire en ce qui concerne la venue de Zidane, même si c'est probable. En tous les cas, Zidane, il peut venir parce que c'est un challenge qui l'excite, qui le passionne, mais il veut avoir des garanties, évidemment, à 100% sur son autorité, qui ne sera évidemment pas discutable.
Et les dernières infos, bien sûr, dans Europe 1 Sport ce soir, autour de Lionel Rousseau et de toute l'équipe des sports. C'est une course mythique, les 24 heures du Mans, 250 000 visiteurs, 62 équipages qui enchaînent les tours de circuit depuis un peu plus de 2 heures. Et justement, après 2 heures de course, eh bien Toyota, Jota, Corvette et Hardpoint font la course en tête. Mais le saviez-vous ? Il y a un peintre officiel aux 24 heures du Mans, le reportage de Marie Gicquel.
Ces tableaux à l'encre représentant des bolides de course s'arrachent à vive allure.
Ben là, je viens de vendre ce qu'on appelle le cochon rose, donc une Porsche qui s'est illustrée grâce à sa livrée rose bonbon.
Pas de hasard, François Bruer est né au Mans. Le jour de la course, petit, il dessinait déjà des voitures dans les marges de ses cahiers d'écolier.
Je regarde les voitures comme on regarderait un tapis volant passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière qui se pose sur une carrosserie, les brillances, les transparences, les reflets, les effets de vitesse.
Peintre officiel de la course depuis 25 ans, ce titre honorifique lui permet d'avoir des entrées sur le circuit.
Lorsque l'on peut effectivement être au bord de la piste et sentir les voitures passer à quelques mètres, à quelques centimètres, sentir les vibrations, le bruit, les odeurs, c'est une autre émotion que d'être parqué dans une tribune à 500 mètres de cela.
Et quand on lui demande si le sujet le lasse, l'artiste ne freine pas, sa passion grandit encore. Une histoire d'amour entre ses pinceaux, les Lamborghini, les Porsche et les Ferrari, loin d'être finie.
Et grand soleil hein, sur le circuit des 24 heures du Mans. Justement, la météo demain, Marlène Duret, toujours beaucoup de soleil ?
Oui Céline, la matinée sera belle pour tout le monde, quasiment. Quelques brouillards au lever du jour localement près des côtes normandes et bretonnes. Un ciel un peu plus variable sur le quart sud-ouest, avec quand même de belles éclaircies. Et elles résisteront l'après-midi, mais un temps instable pourrait se mettre en place des Pyrénées au Massif central, avant de s'étendre aux Alpes, à la Franche-Comté, voire jusqu'aux Vosges en soirée. Donc dans cette partie de la France, il faudra s'attendre à des petites averses, hein, des ondées en pleine, et à une averse aussi potentiellement orageuse sur le relief des Pyrénées et de l'Auvergne. Sur le reste du pays, bon, un peu voilé sur la partie sud-est, mais au nord d'une ligne Royan-Strasbourg, il va continuer à faire très beau. Idem en Corse, plein soleil. Du côté des températures, comptez 17 à 21 degrés près de la Manche, 22 à 29 ailleurs sur la moitié nord, 27 à 32 au sud et des maximales atteignant ou encore dépassant les 35 degrés du Languedoc au Var jusqu'en moyenne vallée du Rhône et même 37 degrés à Nîmes ou Avignon, c'est possible.
Merci Marlène. Allez, ne bougez pas. Europe Soir Week-end, bien sûr, c'est jusqu'à 20h. Et dans quelques instants, je reçois le géopoliticien Nicolas Tenzer pour parler du conflit en Ukraine et de diplomatie. A tout de suite.
Europe Soir Week-end. Céline Géraud.
Allez, on est de retour et on est ensemble, hein, surtout jusqu'à 20h. Ne bougez pas, installez-vous confortablement. On va évidemment décrypter l'actualité. Elle est riche aujourd'hui, avant les législatives. Demain, on va parler, tiens, de diplomatie. Je reçois ce soir Nicolas Tenzer, géopoliticien, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, enseignant à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs essais, notamment « Quand la France disparaît du monde » chez Grasset. Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Alors, au-delà du conflit, il y a bien sûr la stratégie diplomatique déployée par les chefs d'État ces derniers jours. Et celle d'Emmanuel Macron, il faut bien le dire, interroge. Il envisage d'un côté de délivrer de nouvelles armes lourdes à l'Ukraine et il réitère en même temps son appel à ne pas humilier, c'est ses mots, la Russie. Message et posture ambiguë, tant vis-à-vis de Moscou que de Kiev. A-t-il raison, selon vous, de maintenir ce lien, même ténu, avec Vladimir Poutine ?
Écoutez, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté, effectivement, le discours qu'il a tenu le 3 juin et avant le 9 mai devant le Parlement européen sur l'humiliation, qui est évidemment assez malvenu parce qu'il vient de la propagande du régime de Poutine. Personne n'a jamais songé à humilier la Russie. Elle n'a jamais été humiliée, sauf qu'à ce qu'on considère que laisser la Russie commettre des crimes contre l'humanité est une humiliation. Donc ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. Je crois qu'il a parfaitement compris, d'ailleurs, que les réactions étaient très vives. J'étais au cours des 3 dernières semaines à Tallinn, puis à Bratislava, puis hier encore à Varsovie. Quand on discute avec nos amis américains de l'Europe centrale et orientale, il est clair clair que ce discours
il passe pas.
Mm-hmm. Il passe pas du tout. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est encore une fois 100 000 personnes qui ont été assassinées par la Russie en Ukraine. Et avant, on pourrait parler évidemment de la Tchétchénie, de la Syrie, où on le rappellera toujours, la Russie de Poutine a commis finalement plus d'assassinats sur les civils syriens que même Daesh. Donc, je veux dire,
c'est le vocabulaire qui vous dérange. C'est le vocabulaire qui est vraiment maladroit.
Oui, et d'ailleurs, qui est maladroit et qui par ailleurs cache d'autres choses qui sont quand même plus positives. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a compris. Il a vu d'ailleurs que la totalité des experts, y compris en France, étaient un peu étonnés par ce propos, y compris des gens quand même qui le soutiennent très fortement par ailleurs. Donc, il a très bien compris, d'où le besoin, je dirais, de clarifier les choses et la réattiration d'un soutien à l'Ukraine, le fait que la France, vraisemblablement, et ce sera une bonne clôture de la présidence du Conseil de l'Union européenne, va tout faire pour que l'Ukraine obtienne le statut de candidat dès le Conseil européen des 23 et 24 juin. Mmh. L'annonce de la livraison d'armes, y compris d'armes lourdes nouvelles, il y a déjà les canons César, mais il y en aura d'autres à l'Ukraine. Les garanties de sécurité sur le port d'Odessa, tout ceci étant à l'étude, bien sûr, mais donc il y a une sorte, si vous voulez, de tournant, et déjà j'ai l'impression de tournant beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sensé, en disant maintenant il faut vraiment que l'Ukraine gagne la guerre, c'est-à-dire reconquiert les territoires perdus du Donbass et du Crimée depuis 2014, voilà, et qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'il a rappelé, hein, mais là c'était toujours sa position, l'intégrité territoriale et la souveraineté totale de l'Ukraine.
Alors maintenir le dialogue avec Poutine, c'est aussi la posture d'autres chefs d'État ou d'anciens chefs d'État, notamment Angela Merkel, hein, l'ex-chancelière, et le nouveau Olaf Scholz, qui ont répété « Nous devons aider l'Ukraine tout en veillant à ce que cela ne débouche pas sur une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie ». Voilà, ils sont plusieurs, hein. Il y a l'Italie aussi, le Sénégal pour d'autres raisons, mais voilà, il y a ce discours qui surprend, hein. Vous aussi ?
Oui, il me surprend. Alors, c'est vrai que Angela Merkel, je dirais, était quand même en grande partie responsable de la situation aujourd'hui. C'est-à-dire que si en 2014, nous, mais enfin pas uniquement nous, Européens, aussi les Américains, quand même, avaient agi beaucoup plus fortement pour soutenir l'Ukraine dès 2014 contre l'agression russe et l'annexion du Donbass, si les sanctions avaient été si on avait, si on était peut-être même, intervenu en livrant beaucoup plus d'armes à l'Ukraine pour contrer la menace russe, on n'en serait pas ici aujourd'hui.
Mais elle le dit d'ailleurs, Angela Merkel, que Poutine ne comprend que le langage de la force.
Voilà, et en même temps, quand on voit malheureusement son action, pourtant elle connaissait bien Poutine, elle parlait bien, elle parle toujours d'ailleurs bien le russe, de même que Poutine comprend l'allemand aussi. Et en fait, on s'aperçoit que ce dialogue n'a strictement rien donné, qu'il ne donnera jamais rien. Je me souviens, j'avais écrit un article en 2016 disant, mais il ne faut pas négocier avec M. Poutine, alors peut-être garder quand même des canaux de communication ouverts, ça bien sûr, mais l'idée d'une négociation, d'une sorte d'accord avec M. Poutine est une illusion. Et je pense que si on avait été beaucoup plus fort dès, notamment, l'attaque contre la Géorgie en 2008, pour rappeler que 20% du territoire est toujours annexé, probablement aujourd'hui n'en serait-on pas là. Donc je pense que, voilà, et quant à M. Scholz, il a une position effectivement extrêmement ambiguë, d'ailleurs qui passe assez mal en Allemagne, hein. Il y a beaucoup de membres de sa majorité, notamment les Verts, où il y a une partie de son opposition, une partie de la CDU, hein, les chrétiens-démocrates allemands, qui trouvent que M. Scholz ne va pas assez vite, hein, notamment dans la livraison d'armes, qu'il a toujours une position très ambiguë, et il y a quand même, pour le passé, hein, ce péché capital qui a été la dépendance, hein, construite quand même volontaire, envers le gaz russe.
Alors, il y a une autre tendance, enfin une actualité actuellement, c'est celle qui concerne le Sénégal, hein, le président du Sénégal, Macky Sall, qui lui aussi a pris la parole là pour débloquer une situation. Il a rencontré récemment Vladimir Poutine pour lui demander de débloquer justement le transport de céréales et d'engrais vers le continent africain. Il parle de risques de famine bien réels. Et la présidence française a officiellement proposé hier d'aider à débloquer le port d'Odessa pour permettre d'exporter ces céréales ukrainiennes vers les pays qui en ont le plus besoin. Là encore, la France est prompte à réagir. Hein.
Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire que, bon, il y a la position de Macky Sall qui est peut-être un tout petit peu naïf s'il espère quelque chose de Vladimir Poutine.
Il a l'air confiant, en tout cas. Enfin, il fait beaucoup de communication.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de communication, mais je pense qu'il est un peu piégé, en quelque sorte. Hein. Je le comprends. Je ne jetterai certainement pas la pierre, hein, parce qu'on comprend la situation dramatique de la plupart des pays africains. Et là, Macky Sall parlait pas seulement comme président du Sénégal, mais aussi comme président en exercice de l'Union africaine. Hein. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que la situation est quand même dramatique aussi, parce que vous avez énormément de pays d'Afrique, mais aussi d'ailleurs certains pays d'Asie qui dépendent des céréales ukrainiennes, le blé, le maïs, l'huile de tournesol, l'orge notamment, hein, ce sont les quatre céréales principales. Voilà. Et donc ça, concrètement, ce qu'a dit Emmanuel Macron, hein, quand il a dit voilà, je vais aider à débloquer le port d'Odessa. Derrière, il y a quand même trois choses que je vais énumérer peut-être un tout petit peu vite. Premièrement, il faut bien sûr déminer le port qui a été miné par les Ukrainiens pour se protéger de l'envahissement russe.
Ça, c'est vrai.
C'est faisable techniquement. C'est faisable techniquement. Mais ça suppose, deuxièmement, des garanties de sécurité. C'est-à-dire que si le port d'Odessa est déminé, ça veut dire que les navires russes pourraient évidemment attaquer par là l'Ukraine. Et donc ça veut dire que les alliés, hein, concrètement, soyons clairs, hein, les États-Unis principalement, mais aussi bien sûr la France, le Royaume-Uni, d'autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN, devraient garantir la sécurité, bien sûr, du port d'Odessa. Ça veut dire une présence sur place.
Oui, c'est effectivement.
Et que, évidemment, la Turquie doit accepter, parce que pour l'instant, elle empêchait, bien sûr, l'entrée dans la mer Noire de bâtiments de guerre. Et troisièmement, ça suppose d'escorter les bateaux ukrainiens chargés de céréales qui quitteraient notamment le port d'Odessa, de sécuriser leur trajet jusqu'au bout pour veiller à ce que les céréales soient bien délivrées et veiller aussi à ce qu'ils ne soient pas attaqués.
Oui, parce qu'il y a entre 20 et 25 millions.
Soit par des navires.
Ouais, ouais. Voilà. Entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées. Hein. C'est énorme.
Oui, et certaines qui commencent à pourrir, malheureusement. On rappellera d'ailleurs aussi que la Russie, à Mykolaïv, a détruit quand même un des plus importants stockages de céréales, avec là aussi plus de 20 millions de tonnes de céréales. Enfin, on imagine le nombre de personnes que cela aurait pu nourrir. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans une sorte de guerre, mais ça suppose, bien sûr, encore une fois, une résolution très forte, des garanties de sécurité, une escorte militaire. Enfin, je veux dire, il y a derrière, si vous voulez, des choses très techniques, mais en même temps politiquement significatives, que les alliés devront faire avec, bien sûr, des risques d'affrontement, mais je pense qu'il faut consentir à ces risques d'affrontement aujourd'hui.
Alors, en termes de diplomatie, encore une fois, Nicolas Denzer, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est attendu ce mardi en Roumanie, mercredi en Moldavie. Ce sont deux pays voisins de l'Ukraine. Avec le ministre des Armées, il va aller à la rencontre des 500 soldats français déployés justement en Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle, mais pas de visite officielle en Ukraine à ce stade. Alors peut-être en petit comité, il va rencontrer Volodymyr Zelensky qui vraiment souhaite rencontrer Emmanuel Macron avant la fin de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Vous en parliez, c'est le 1er juillet prochain. Quel est l'enjeu de ce timing ?
Ben, je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est d'abord tout simplement montrer que le président en exercice du Conseil de l'Union européenne vient à Kiev. Il n'y est pas allé. Il faut rappeler d'ailleurs que pendant les 5 ans de présidence, Emmanuel Macron n'y a passé que quelques heures au retour de Moscou, 6 jours avant la guerre. Le début de la nouvelle guerre. Bon. Donc Emmanuel Macron n'est pas allé à Kiev avant. Il est allé plusieurs fois en Russie, mais jamais en Ukraine. Donc ceci, encore une fois, les Ukrainiens le savent, le perçoivent mal. Ensuite, il est un des rares chefs d'État et de gouvernement européens, et a fortiori président en exercice, à ne pas être allé pendant la guerre. Aujourd'hui, vous avez la deuxième visite pendant la guerre d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Il a préféré le téléphone, il a passé des heures et des heures au téléphone
mais une présence sur place, c'est-à-dire voir non seulement le président Zelensky, mais des représentants de la société civile ukrainienne, voir, je dirais, des personnes qui peuvent parler tout simplement des crimes commis, aller voir des hôpitaux, discuter avec des gens. Moi, c'est quelque chose personnellement que je fais il y a 6 semaines où je suis allé en Ukraine. Je veux dire, quand on discute avec les maires de Lviv, de Kiev, de Boutcha, la ville martyrisée, de Borodyanka, etc., on perçoit aussi la réalité de ce que vivent les Ukrainiens. Et je pense que ça, c'est très important pour Emmanuel Macron. Alors, il pourrait y aller éventuellement. Bien sûr, son déplacement doit être tenu secret pour des raisons de sécurité à l'avance. Ça, on le comprend parfaitement. Soit après la Moldavie, c'est quand même pas très très loin. Soit, il y a une petite fenêtre de tir entre le Conseil européen des 23-24 juin et le sommet de Madrid de l'OTAN entre le 28 et le 30 juin. Donc, c'est aussi une autre fenêtre de tir. Mais effectivement, il doit y arriver avec quand même quelque chose de concret. D'abord, évidemment, le soutien au statut de candidat dès le Conseil européen de juin. Alors, ça peut être avant, ça peut être après, mais je pense que ça, c'est important. L'annonce, effectivement, de fourniture de nouvelles armes. La définition claire de but de guerre, qui a aidé l'Ukraine concrètement à reconquérir les territoires perdus. Je crois que tout ceci, évidemment, est tout à fait important. Il s'est fait voler la vedette, hein, Emmanuel Macron, oui, par le président polonais Duda. Vous savez, c'est le premier président, le seul d'ailleurs, je crois, qui, en temps de guerre, a parlé devant la Rada, donc le Parlement ukrainien. C'était un geste extrêmement fort. Voilà. Donc je pense que là, il y a quelque chose effectivement à rattraper et c'est effectivement urgent.
Alors, on va revenir plus près de chez nous, en France. Hein. Je rappelle que vous avez fait l'école normale hein, et l'ENA, promotion 84-86, promotion d'Hydro. Je vous parle pourquoi de l'ENA ? Parce qu'il y a eu une grève très rare. Hein. C'est un symbole qui est fort, c'est une institution. L'ultime promotion donc, de l'ENA, créée, faut-il le rappeler, en 1945 par le général de Gaulle, eh bien, c'est une colère, une mobilisation des élèves hein, qui déplorent la formation chaotique, des modifications brutales du contenu des enseignements et une improvisation généralisée. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est l'attractivité même de la fonction publique qui est en danger ?
Oui, ce n'est pas un sujet nouveau, à vrai dire. Hein. Vous savez, moi, j'ai fait un de mes trois rapports officiels au gouvernement. C'était un rapport sur la fonction publique en 2000. Déjà, je constatais, effectivement, il y a une démotivation des hauts fonctionnaires. Beaucoup, effectivement, dont la carrière s'arrête souvent à l'âge de 40, 45 ans, qui après n'ont plus véritablement de fonction. Il y a, dans certains cas, effectivement, une sorte de prééminence donnée à des membres de cabinet par rapport à des fonctionnaires blanchis sous le harnais. Une absence de mobilité, un vrai engagement, si vous voulez, au service de l'État qui, pour certains, ne fait plus sens aussi. Et puis, une formation, concrètement, qui, à l'ENA, ne s'est pas beaucoup améliorée. Et dans le nouvel institut, je dirais, du service public, voilà, il y a apparemment un certain nombre de flottements.
Et c'est une colère qui s'inscrit dans le sillage de celle des diplomates, d'ailleurs.
Voilà, et effectivement, vous avez eu la grève du Quai pour des raisons compréhensibles, hein, qui sont aussi, d'ailleurs, la diminution constante des moyens. Hein. Moi, je l'avais tracé dans un grand rapport, enfin, j'ai fait deux rapports, en fait, d'audit du Quai hein, en 2002 et 2008, là aussi. Et déjà, on déplorait la baisse de moyens, hein, comparativement à nos partenaires, comparativement à l'Allemagne, même parfois à l'Italie, à d'autres pays. Tout ceci est normal, et puis surtout, un vrai problème de carrière. C'est-à-dire que comment motiver des gens dont la carrière va très vite s'arrêter. Et donc, du coup, ça freine quelque chose qu'Emmanuel Macron souhaitait, à mon avis, a raison, hein, puisque c'était même des recommandations, ça fait partie des recommandations que j'émettais à l'époque, favoriser une plus grande mobilité entre les ministères.
Mmh. Pour vous, il y a un vrai risque, selon vous, pardon, Nicolas Tenzer, qu'on fragilise l'outil diplomatique français, on l'affaiblisse
il y a un vrai risque. Le Quai a beaucoup de défauts, beaucoup de gestion dans sa gestion, mais aussi quand même une perte considérable de moyens d'action, de moyens d'influence. Alors, ouvrir le Quai, oui, bien sûr, il le faut. Moi, je suis le premier, encore une fois, je l'ai recommandé.
Le Quai d'Orsay, hein. Je précise pour nos
auditeurs. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, absolument. Il faut l'ouvrir à d'autres personnes, mais pas l'ouvrir à des gens selon des critères politiques, mais d'abord selon des critères de compétences. Il y a quand même des gens en France qui travaillent sur les questions de politique étrangère, ils ne peuvent pas devenir diplomates. Inversement, beaucoup de diplomates ne trouvent pas de débouchés ailleurs, dans une université, dans un think tank, pendant très longtemps, où il y en a extrêmement peu. Je trouve qu'il faut à la fois mettre en mouvement cette fonction publique, lui donner beaucoup plus de variété, de diversité, et en même temps garder quand même des cœurs de métier, donner des perspectives aux gens, motiver les gens. Je trouve ça assez dommage, effectivement, quand on voit les jeunes, soit même des étudiants que j'ai, les étudiants aujourd'hui sont beaucoup moins attirés par les métiers de service de l'État. Il y a une perte de vocation. Moi, je sais que quand je suis entré moi-même au service de l'État, pour moi, c'était une vraie vocation.
Ouais. C'est quelque aujourd'hui,
chose
c'est plus
qu'on
compliqué.
Retrouve plus aujourd'hui. Ouais. Et c'est un vrai sujet, mais qui dépasse encore une fois. Et je pense que même sur l'ENA, on a beaucoup traité, je dirais, des questions de statut, de formation, on a visé le symbole de l'ENA, mais quelles sont les compétences, les connaissances, la culture, l'éthique, les principes que doivent avoir un haut fonctionnaire, toutes ces questions de fond, et quelles sont les formations adéquates, hein, notamment par les humanités, la littérature, la philosophie, le droit, et aussi peut-être un peu de recherche. Hein. Oui. Toutes ces questions-là ont été complètement évacuées. Il y a eu une réforme très technocratique, en quelque sorte, mais pas une réforme qui faisait sens.
Je sens que je vais vous inviter hein, dans le studio pour faire un débat autour de ce sujet qui est palpitant aussi.
Ah ben écoutez, volontiers.
Merci beaucoup en tout cas Nicolas Tenzer pour cet échange palpitant et bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1 bien sûr.
Merci, à vous aussi, merci.
Allez, on reste ensemble bien sûr, l'aventure continue, Europe 1, Europe Sport week-end, Europe Soir week-end, pardon. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Europe Soir week-end, Céline Géraud.
Europe Soir Week-end, l'aventure continue jusqu'à 20h, décryptage de l'actualité avec au sommaire de cette prochaine demi-heure, eh bien l'Ukraine. 108e jour de conflit, la présidence française annonce qu'elle va apporter son aide pour débloquer le port d'Odessa et permettre l'acheminement des céréales vers le continent africain et le Moyen-Orient. Nous ferons le point sur la stratégie diplomatique française. L'ex-président Donald Trump présumé responsable de tentative de coup d'État le 6 janvier 2021, date de l'assaut vers le Capitole à Washington. Le vocabulaire n'est-il pas trop fort? Mais tout de suite, nous allons revenir ensemble sur le procès des attentats du 13 novembre, la perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam par le parquet national antiterroriste, verdict rendu le 29 juin. Et pour en débattre dans ce studio ce soir, Marie-Virginie Klein, conseillère en communication. Bonsoir Marie-Virginie, merci d'être là. Et puis Jean-Yves Le Borgne, avocat. Pénaliste.
Bonsoir.
Bonsoir, mais je vous tourne vers vous directement, cher maître. Le grand pénaliste que vous avez été à plaider et que vous êtes toujours plus de 150 fois aux assises, je crois, un réquisitoire de 15 heures porté par 3 avocats, 15 heures pour résumer 4 ans et demi d'instruction, 9 mois d'audience pour reconstruire la mécanique de ces attentats les plus meurtriers de l'histoire. Est-ce que cette plaidoirie va faire date? J'ai envie de dire oui, mais elle a été remarquable.
Mais vous savez, je pense que ce procès est une manière d'abord de montrer aux victimes à quel point notre société prend en compte la tragédie que leurs proches ou eux-mêmes ont pu traverser. Et indiscutablement, d'une manière unanime, je n'ai pas entendu directement les réquisitions, mais l'écho que j'en ai me laisse à penser que c'est un travail extraordinairement sérieux, précis. Et puis, le caractère respectable de toute l'opération. Je ne parle pas seulement des réquisitions, qui le sont tout autant, mais du procès dans son ensemble, dans tous ces mois, avec ces magistrats qui sont allés jusque dans le détail de ce qui s'est passé.
Précision c'est chirurgicale.
Oui, mais si vous voulez, c'est un peu, au fond, le grand contraste entre la violence brutale, élémentaire, instantanée, et la démocratie qui analyse, qui soupèse, qui fait des nuances. Et le réquisitoire a d'ailleurs introduit un certain nombre de nuances.
Effectivement. Marie-Virginie Klein, l'un des moments marquants de ce réquisitoire, ce sont les mots de Camille Hentier, avocat général, sur la réinsertion impossible de certains accusés. Elle est dit « Lorsque le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est presque incurable. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?» C'est fort. Voilà,
j'ai l'impression que dans cette séquence, c'est justement Camille Hentier qui devient une des figures autour desquelles on se tourne tous. Elle a eu plusieurs citations très fortes. Là, je crois qu'elle citait Voltaire.
Absolument, c'était Voltaire.
Elle citait Voltaire et elle a ce don, et je pense que c'est le don des avocats, de mettre des mots sur des sentiments qui remontent à la surface, qui nous semblent tous incompréhensibles, et de mettre des mots pour nous faire comprendre. C'est-à-dire là, si on se met à citer Nietzsche après Voltaire, ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre. Et je pense que cette séquence qui reste dans quelque chose d'extrêmement émotionnel pour nous tous, qui fait remonter ces attentats les plus horribles, je crois, que la France ait connus. Et bien finalement, on passe de l'émotion pure à la compréhension, je dirais pas du tout à l'apaisement, puisque je pense que c'est des plaies qui s'apaisent jamais, mais en tout cas, on prend du recul et on se dit que justice peut quand même être faite, même si les morts ne reviendront pas à la vie, la justice sera quand même faite.
Précision, exhaustivité, sobriété. Camille Hentier, Nicolas Braconnet, Nicolas Lebris, voilà les 3 avocats généraux qui sont sur ce procès. La peine la plus lourde et sans surprise a été demandée à l'encontre du seul membre encore en vie des commandos, donc Salah Abdeslam. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible compte tenu de l'immense gravité des faits. C'est une sanction rarissime quand même.
C'est une sanction qui est très exceptionnellement prononcée du fait de son caractère extraordinairement dur. C'est-à-dire qu'on entend ici ou là, oui, la perpétuité, c'est 20 et quelques années. C'est vrai, il y a une moyenne qui doit se situer aux alentours de 23-25 ans de détention réelle. Là, c'est la perpétuité réelle. Et au fond, c'est l'écho dans l'esprit de cette magistrate que vous citiez tout à l'heure qui dit qu'au fond, quand on est à ce point pénétré par une idéologie de la violence et de la brutalité, on ne peut pas espérer qu'il y ait une manière de revenir à des critères et à un mode de vie qui soit le nôtre. Au fond, c'était dans la logique des choses que le désespoir qu'elle mettait dans le regard qu'elle portait sur cet homme, je n'ai pas à dire si elle a raison ou tort, je ne veux pas m'immiscer dans une position que je n'ai pas dans ce procès, elle est au fond ce qui appelait la réquisition de récusion criminelle incompressible.
Ouais, sanction rarissime, je le disais, n'a été prononcée qu'à 4 reprises depuis son instauration en 1994. Vous, le réquisitoire, évidemment, ne vous a pas surpris. Enfin, on a presque banalisé cette réclusion criminelle à perpétuité qui ne sauvera rien.
Oui, et ce qui m'a surpris peut-être, c'est la défense fragile du coup de Salah Abdeslam, enfin en tout cas qui a été commenté comme fragile, puisqu'il a voulu en fait se sortir lui-même du conflit en ne se présentant que comme un invité à un projet beaucoup plus général. Et j'ai l'impression que pendant toute cette séquence, ses arguments ont été démontés un à un et ne lui laissant absolument plus aucun crédit, et que cette position de se déresponsabiliser, qui est, j'imagine, je parle sous le contrôle du maître que nous avons autour du plateau, une stratégie quand même classique quand on essaye de défendre l'indéfendable. Enfin, c'est intéressant de savoir comment on peut défendre aussi, c'est un autre sujet.
Rien n'est indéfendable.
Rien n'est indéfendable.
Défendre n'est jamais approuvé, d'ailleurs.
Oui, vous savez de quoi vous parlez.
Bien sûr. Mais il n'y a pas de solidarité entre l'avocat et l'acte de son client. Et je pense même que pour les jeunes avocats qui ont été commis d'office pour la plupart d'entre eux aux côtés de ceux qui comparaissaient dans ce procès, il y a une sorte d'héroïsme à devoir défendre, d'abord à contre-courant de l'opinion publique, parce que je ne suis pas sûr que dire qu'on est l'avocat du grand terroriste, ça soit plaise beaucoup auprès du cercle d'amis qu'on a. Mais justement, vous savez, il y avait le titre d'un livre, d'ailleurs, est presque une règle de conduite professionnelle, les défendre tous.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, quoi qu'ils aient fait.
En attendant, évidemment, on suivra ce procès jusqu'au bout. Je vous l'ai dit, le verdict est attendu le 29 juin. Allez, on s'en va en Ukraine maintenant. Je vais vous entendre sur le conflit. On est au 108e jour de conflit. Et comment est-ce qu'il faut analyser, selon vous, la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, qui d'un côté envisage l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine, des armes lourdes, après les canons César, et qui de l'autre déclare qu'il ne faut pas humilier la Russie. Maintenir le dialogue avec justement Vladimir Poutine, c'est aussi la position de l'ex-chancelière Angela Merkel et du président sénégalais Macky Sall. Qu'en pensez-vous?
Moi, je souscris tout à fait à cette position d'équilibre. C'est entrer dans un conflit avec passion, s'installer dans un manichéisme en disant « vous, vous êtes le bien, vous êtes le mal ». C'est une manière de se priver, de s'interdire, de débuter un dialogue avec celui qu'on a voué aux gémonies d'une manière définitive. Je pense que depuis le début, le président de la République veut que la voix de la France soit entendu. Alors ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on peut parler aux deux belligérants, on peut faire avancer les choses.
Il passe beaucoup de temps au téléphone pour l'instant. Il n'est pas encore allé à Kiev depuis bien longtemps, d'ailleurs.
Mais je pense aussi que le fait qu'il ne soit pas allé à Kiev, encore que, si j'ai bien vu, il est annoncé très récemment qu'il envisageait peut-être y aller sans tarder. Mais je pense aussi que c'est une manière de vouloir rester, je ne dirais pas neutre, parce qu'il est clair qu'on a déclaré, et je pense que c'est un peu dans tous les esprits, qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Mais indépendamment de cela, si l'on veut pouvoir parler aux Russes, il ne faut pas commencer par les injurier. Et puis, au-delà de cette guerre qui nous place dans une situation où, bien sûr, il faut choisir le camp du bien, il faut se rappeler que l'Europe, c'était et c'est toujours de l'Atlantique à l'Oural.
Oui, d'ailleurs, la présidence de l'Europe va changer, hein, l'Union européenne. À partir du 1er juillet, ce sera la République tchèque qui prendra la présidence. Marie-Virginie Klein, sur la posture justement d'Emmanuel Macron et ce vocabulaire qui peut choquer, hein, ne pas humilier la Russie.
Oui, moi j'ai le sentiment qu'il essaye maintenant de clore cette séquence de « il ne faut pas humilier la Russie » en envoyant maintenant des signaux qui sont beaucoup plus, qui montrent qu'il durcit beaucoup plus le ton.
C'est-à-dire
alors, d'abord, son engagement pour le déblocage du port d'Odessa. Oui. Ça, c'est un premier signal, à mon avis, qui montre quand même qu'il veut s'engager, qu'il veut prendre part. Parce qu'en disant qu'il ne faut pas humilier, on peut aussi lui reprocher qu'il ne faut pas trop s'engager, finalement. Et l'autre signal, c'est si effectivement il fait son déplacement à Kiev la semaine prochaine, qui n'est pas confirmé, mais quand même, il se déplace tout autour de l'Ukraine. Donc, on se dit qu'il va peut-être finir par aller à Kiev. Si vraiment il fait ce déplacement, pour moi, quand même, la diplomatie, c'est une affaire de symbole. S'il se déplace, c'est pas une humiliation, bien sûr que non, mais c'est un acte beaucoup plus engagé que ceux qu'il a pu avoir aujourd'hui pour l'Ukraine. Et donc, moi, je pense que d'une certaine façon, c'est une façon de regretter ces propos qui ont effectivement quand même...
très maladroits et très mal reçus.
Oui, qui ont créé une polémique immense sur ne pas humilier la Russie.
Oui, mais
même si on peut comprendre. Hein, mais...
on aime le manichéisme et tout, beaucoup d'interlocuteurs, lorsque vous êtes un peu pour l'un et un peu contre l'autre, mais un peu aussi...
On est dans le « en même temps ».
Oui, mais ce n'est pas seulement le « en même temps » qui, évidemment, porte une signature, presque un sceau de propriété intellectuelle. Je pense que si la diplomatie, c'est précisément la considération de l'autre. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était à Kiev. Mmh. Et que le précédent ministre des Affaires étrangères n'y était jamais allé. Mmh. Là aussi, on voit une manifestation de considération. Mais je pense que du côté ukrainien, personne ne se trompe sur la sympathie de la France. Mais la sympathie, je dirais que c'est un luxe privé. Quand on est dans la diplomatie... Il ne s'agit pas de répondre à ses sentiments, il faut penser à l'équilibre du monde.
Et donc, il faut avoir une position un peu claire. Et moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le manque de lisibilité sur la position. Parce que,
voilà, c'est ce que je disais, vis-à-vis de l'opinion.
Oui, un petit peu. Moi, la Française de base que je suis, veut comprendre la position de la France, clairement, vis-à-vis de ce conflit. Parce que j'ai l'impression qu'en faisant un pas... Bien sûr que c'est de la diplomatie, mais en faisant un pas en avant, un pas en arrière, puis un pas en avant vers l'Ukraine, finalement, est-ce qu'on s'engage vraiment d'une partie ou d'une autre vers ce conflit, en ne voulant vexer personne? J'ai l'impression que voilà, la Russie ne prend pas forcément toutes ces délicatesses.
Je ne partage pas votre avis. Il n'y a pas de pas en avant et de pas en arrière. Il y a des positions claires qui sont bien entendu de solidarité avec le peuple ukrainien qui est le peuple agressé. Et il y a l'idée que si l'on peut faire avancer les choses, c'est en faisant en sorte que les belligérants d'aujourd'hui soient demain autour d'une table. Mmh. Et si l'on est placé déjà dans un camp...
Une table de 4 mètres de long.
Il faut indiscutablement pouvoir parler aux Russes. Et puis, vous savez, il y a les Russes d'aujourd'hui, il y a la situation qui est ce qu'elle est. Et puis, il y a la Russie éternelle dont je rappelais tout à l'heure qu'elle fait partie de l'Europe et que si aujourd'hui elle s'égare, il serait bon qu'elle pense demain que nous n'avons jamais cessé de la regarder avec une certaine sympathie malgré ses erreurs.
En attendant, la France passera le 1er juillet prochain le relais à la République tchèque pour la présidence du Conseil européen. Elle a été parmi les premiers pays de l'OTAN à livrer des armes à l'Ukraine, faut-il le rappeler, d'anciens chars soviétiques d'ailleurs, pour la petite histoire. Est-ce que le positionnement de l'Europe vis-à-vis de Poutine peut bouger avec ce changement de présidence ?
Écoutez, moi, je ne lis pas dans le marc de café, mais quand on parle d'un pays qui faisait partie de l'Europe de l'Est et qui était du mauvais côté du rideau de fer, je pense que la situation de l'Ukraine réveille un certain nombre de souffrances anciennes qui ont peut-être été oubliées, surtout par la nouvelle génération, oui, parce qu'il y a longtemps que le rideau de fer est tombé, mais qui néanmoins signifie quelque chose. Et probablement que ce manichéisme que vous appeliez de vos voeux va se manifester à travers cette présidence européenne. Je maintiens que la diplomatie est dans la distance et dans l'équilibre.
Allez, on verra bien, on suivra évidemment ce feuilleton, en tout cas ce conflit qui s'enlise, 108e jour de guerre, je le rappelle, entre l'Ukraine et la Russie. Allez, on est toujours dans le studio d'Europe Soir Week-end avec Marie-Virginie Klein, conseillère en communication, et Jean-Yves Le Borgne, avocat. Alors cela ne vous a pas échappé, c'est un Donald Trump présumé responsable d'avoir fomenté un coup d'État il y a un an et demi qui a fait l'actualité aussi cette semaine en incitant les insurgés à envahir le Capitole à Washington. Alors, est-ce que c'est un événement historique ? Est-ce qu'on va trop loin en parlant de coup d'État, Marie-Virginie Klein ?
Moi, je ne pense pas qu'on va trop loin, parce que c'est un symbole énorme, mais ce qu'on découvre là avec la remise des résultats de l'enquête, c'est quand même qu'il avait fomenté un coup d'État dessiné en 4 ou 7 étapes pour faire basculer le gouvernement Joe Biden. Donc c'est quand même absolument monumental. Et donc, oui, quand on veut renverser un pouvoir, Il n'y a pas d'autre mot pour le dire qu'un coup d'État. Et les scènes auxquelles on a assisté là pendant le développement des résultats de cette enquête, oui, elles sont absolument
alors
incroyables.
Les vidéos étaient pièces à conviction d'ailleurs au cours de cette commission d'enquête qui a duré plusieurs semaines. Il y a eu 5 morts, faut-il le rappeler, 138 policiers blessés, 700 personnes inculpées. C'était le 6 janvier, juste après la défaite de Donald Trump. Jean-Yves Le Borgne.
Ben, je veux dire, je ne sais pas si on est vraiment dans un processus de coup d'État. L'histoire le dira, je n'en suis pas sûr. En revanche...
Très actif sur les réseaux sociaux aussi à ce moment-là, et donc
ben
ça
oui, c'était le relais précisément pour mettre de l'huile sur le feu.
Et attiser la violence. Quand même, qu'il a dit que l'élection de Donald Trump était un vol. Enfin, je veux dire, quand on ne reconnaît pas une élection et qu'on met en œuvre en plus des actions comme celle au Capitole pour renverser le pouvoir en place, c'est quand même... Pas un coup d'État, mais une tentative de coup d'État.
Était-ce la finalité véritablement arrêtée, organisée? J'en suis pas sûr. Maintenant, je ne vous contrarierai pas sur le caractère peu exemplaire en termes de démocratie de Donald Trump. Et voyez-vous, cet appel à la violence, finalement, surtout s'il ne s'inscrit pas dans un processus concerté et organisé de coup d'État, s'il est un peu irrationnel, un peu sans finalité précise, c'est l'expression physique de la simplicité, pour ne pas prendre un mot plus dur, du populisme. Lorsque l'on est finalement un peu un ennemi des idées et qu'on est une sorte de chantre de la violence et du mouvement spontané, eh ben ça aboutit à ça. Ça aboutit à une protestation verbale, à un appel à la violence. Au fond, la parole. On en parlait tout à l'heure à propos du procès des attentats.
Du Bataclan,
La parole, la discussion, l'échange de points de vue, ce que nous faisons aujourd'hui même à l'instant, c'est le symbole même de la démocratie. Quand on est dans la violence, on est nécessairement dans autre chose.
Et ce combat, il était porté, Marie-Virginie Klein, par la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush, qui est élue républicaine, honnie évidemment par Donald Trump, et membre de cette commission, qui en a fait finalement le combat décisif de sa vie politique.
Oui, et puis... Quel est l'objectif final de ces travaux? C'est bien de faire condamner Donald Trump par l'opinion publique. Juste pour se remettre dans le contexte là, en ce moment de l'opinion publique aux États-Unis, on est dans un contexte d'une division absolument totale.
Les mid-termes sont très intéressants.
Les mid-termes vont être extrêmement intéressants, puisqu'il y a quand même 75% des républicains qui estiment que l'élection de Joe Biden a été volée. Donc on est quand même dans un truc. Et c'est-à-dire qu'on est dans une Amérique qui est totalement divisé sur des sujets ultra stratégiques comme les armes à feu, la santé, l'avortement. On est face à deux camps qui, vraiment, là, ne débattent pas. Je pense que le débat qu'on a ce soir serait pas possible aux États-Unis, en tout cas pas dans des termes cordiaux. Et donc, on est quand même... Les résultats de ces travaux interviennent avant les midterms qui sont en novembre. Et donc, elles sont là pour enlever tout crédit à Donald Trump. Et visiblement, ça n'imprimera que ceux qui voudront bien l'entendre, puisqu'on est dans un état des lieux où on ne se parle pas, où les républicains, les démocrates ne peuvent plus communiquer les uns avec les autres.
Non, mais je crois que vous avez entièrement raison. Cette absence de parole a aussi un problème, c'est qu'il y a une partie de la population, hélas, probablement pas seulement aux États-Unis, qui n'a pas envie du discours, qui n'aime pas la dialectique, qui veut des choses brutes et simples. Je ne citerai pas de nom, surtout dans cette période où les campagnes électorales sont closes. Mais nous avons aussi chez nous des leaders qui préfèrent le slogan à l'analyse. Oui. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant.
Question pour un champion, je pense qu'on a un petit peu deviné de qui vous parliez. Merci beaucoup.
Je n'ai pas donné de nom, mais si vous insistez.
Merci Jean-Yves Le Borgne, merci beaucoup Marie-Virginie Klein.
Merci
pour cet échange palpitant ce soir dans Europe Soir Weekend. Et on continue évidemment, on se retrouve tout de suite pour la suite jusqu'à 20h. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud vous informe sur Europe 1.
Allez, Europe Soir Weekend, on est ensemble jusqu'à 20h dans quelques instants. À quelques jours du bac, nous parlerons de notre école avec le normalien Jean-Paul Brighelli. En attendant, le journal. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Europe 1, il est 19h.
Les Français d'outre-mer votent aujourd'hui pour le premier tour des législatives. Demain, ce sera au tour de la métropole. Aux Antilles, la participation est très maigre. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
9 mois de conflit entre la France et l'Australie et enfin un apaisement. Canberra va indemniser Naval Group pour la vente de sous-marins avortés. Un accord qui signe la fin d'une importante brouille diplomatique entre les deux pays.
Malgré le beau temps ce week-end sur le pays, évitez de vous baigner sur les plages de Nouvelle-Aquitaine. De très forts courants sont attendus. La préfecture a émis une alerte.
Elle tourne sur le circuit du Mans depuis 3 heures maintenant. Une 90e édition qui marque le grand retour de Peugeot avec sa 9X8. La tendance météo, Marlène Duret.
Alors la tendance estivale, malgré quelques ondées du quart sud-ouest aux frontières de l'est, avec même un risque orageux en montagne, il fera beau sur le reste du pays, toujours très chaud en tout cas dans le sud-est. On fait un point complet à la fin du journal.
Merci Marlène.
Europe 1.
6 semaines après les présidentielles, ce week-end se tient donc le premier tour des élections législatives.
Les Français d'outre-mer votent dès aujourd'hui pour élire leurs députés un jour avant la métropole. Ce sont les électeurs de Saint-Pierre et Miquelon qui ont été les premiers à se rendre aux urnes à 8h locales. Il était midi à Paris. En Martinique, les électeurs ont encore 5h pour faire leur choix. Les bureaux de vote ferment à 18h sur place, minuit heure de Paris. Et le scrutin vise à départager 55 candidats pour 4 sièges à pourvoir. Bonsoir Florin Aussu.
Bonsoir.
Correspondant d'Europe 1 en Martinique, Florin, les chiffres officiels de participation sont tombés et confirment à la mi-journée une très forte abstention.
Effectivement, à peine 7,2% des électeurs se sont rendus aux urnes à la mi-journée. Le chiffre est en recul de 2 points par rapport aux données récoltées il y a 5 ans à la même heure. L'année 2017 avait été marquée par un très fort taux d'abstention à la clôture des bureaux de vote. 74% des électeurs avaient boudé les urnes. Ce matin, pourtant, quelques Martiniquais ont tenu à être parmi les premiers à voter. C'est le cas de Marie-Albert, il était présent dès 8h.
Pour moi, c'est très 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 important parce que j'ai le droit de voter et je suis un Français. Alors, j'ai rempli mon devoir.
Un sentiment que partage également Angélique.
Trop de personnes se sont battues pour que j'ai le droit de vote. Vu comment les choses vont, je pense qu'il y a eu trop d'abstention et aujourd'hui on a ce qu'on a.
Quant à savoir comment départager les candidats, la mère de famille a choisi la méthode la plus simple.
Je me suis simplement rapprochée de celui qui, à mon sens, correspondait plus à mes convictions.
Verdict à partir de 18h ce soir, heure locale, à l'inverse du scrutin présidentiel. Les résultats seront connus ici dès la fin des opérations de dépouillement ce soir.
Florin Aussu, correspondant d'Europe en Martinique.
Et pendant ce temps-là, les relations entre la France et l'Australie sont sur le point de s'apaiser.
9 mois après l'affaire de la vente avortée de sous-marins qui avait créé un conflit financier et diplomatique entre les deux pays, un accord a été trouvé. Pour compenser la perte subie par Naval Group, l'Australie va dédommager le fabricant de sous-marins à hauteur de 555 millions d'euros, soit 1% du contrat qui s'élevait à 56 milliards, un accord qualifié d'équitable par Naval Group, et une indemnisation nécessaire pour clore la brouille diplomatique. C'est ce que nous explique le général Trinquant, ancien général de l'ONU et spécialiste des relations internationales.
Ce dédommagement, ça représente la fin d'un épisode qui n'est pas à l'honneur de l'Australie, mais qui clôt le débat. En fait, l'Australie paye 1% de l'ensemble du contrat. Le contrat était à 56 milliards. Elle paye 550 millions, ce qui permet à Naval Group de ne pas licencier le personnel et de continuer sur d'autres activités. Et à l'Australie, j'allais dire d'enterrer la hache de guerre qu'elle avait déterrée avec l'accord qu'elle avait rompu et le nouvel accord passé avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça clôt un chapitre mauvais parce que les Australiens avaient rompu leur engagement. Ça mettait une ambiance détestable entre la France et l'Australie, alors que la France et l'Australie sont des pays proches et nous avons besoin de coopérer ensemble.
Le général Trinquant avec Océane Théard pour Europe 1.
108e jour de guerre donc en Ukraine, l'armée russe continue de pilonner l'est du pays pour en arracher le contrôle.
Et c'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est à nouveau rendue à Kiev aujourd'hui. Elle a promis une réponse rapide à l'Ukraine sur ses ambitions européennes. Elle se prononcera la semaine prochaine. Face à l'intensité des combats dans le Donbass, Volodymyr Zelensky lui a redit toute sa détermination à rejoindre les 27.
C'est certainement le moment décisif, et pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne, pour l'ensemble du continent européen. Il s'agit maintenant de décider quel sera l'avenir de l'Europe unie et s'il y aura un avenir. En ces temps de guerre cruelle, nous, Ukrainiens, avons prouvé que notre État et nos institutions publiques restent durables, que notre peuple est absolument intégré dans l'espace européen.
L'examen du dossier ukrainien déposé fin février est en cours d'examen. Aucune procédure accélérée n'est prévue. Ursula von der Leyen a redit au cours de sa visite que l'Ukraine allait devoir fournir encore de nombreux efforts pour espérer adhérer à l'Union européenne.
Vous avez beaucoup fait pour renforcer l'état de droit, mais il reste encore à mettre en place des réformes pour lutter contre la corruption, par exemple, ou pour moderniser cette administration qui fonctionne bien pour aider à attirer les investisseurs.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en parallèle de cette visite, alors que le blocage des céréales crée une crise alimentaire mondiale. La France se dit prête à aider à lever le blocus du port d'Odessa, une annonce en dépit des combats meurtriers et du fait que la mer est minée. Par ailleurs, les premiers passeports russes ont été remis aujourd'hui à des habitants du sud de l'Ukraine, une procédure rendue possible après un décret signé fin mai par Vladimir Poutine.
Les anti-armes attendues dans la rue aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, des manifestations sont prévues dans de nombreuses villes du pays pour faire pression sur le Congrès afin que la législation soit plus stricte. Des défilés à la suite de récentes fusillades et notamment de la tuerie dans une école primaire de Uvalde au Texas qui a coûté la vie à 19 personnes, dont 18 enfants.
Europe 1, il est 19h07, l'actualité judiciaire. Il est surnommé le violeur de la Sambre et son procès s'est ouvert hier devant les Assises du Nord.
Dino Scala, 61 ans, comparaît pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle commis en 30 ans, entre 1988 et 2018. Hier, à l'occasion de la première journée d'audience, il a tenté d'expliquer ses agissements. Lionel Gougelot.
Le regard dans le vague, Dino Scala écoute impassible l'énumération des 56 viols ou agressions sexuelles qui lui sont reprochés. 30 années d'un parcours de prédateur sans que ce père de famille, ouvrier modèle, n'éveille le moindre soupçon. De son enfance, il se souvient qu'il a toujours été considéré comme un bon à rien par son père. Il évoque aussi ses frustrations conjugales et reconnaît finalement avoir été poussé par un instinct de chasseur pour agresser toutes ces femmes, le plus souvent dans la pénombre des petits matins d'hiver. Explication pour l'heure insuffisante, selon Valérie, l'une de ses victimes.
En fait, il dit ce qu'il a déjà dit à tout le monde. En fait. Il a besoin de dire des choses, mais apparemment, il ne peut pas. Il ne peut pas s'exprimer, ou il ne veut pas. Enfin, mais nous non plus, on n'a pas l'explication. Et c'est ce qu'on est venu chercher, en fait.
Vous espérez une demande de pardon ?
Non, pas de pardon, pas d'excuse. Ce qu'il a fait ne peut pas être défait.
Et toutes les femmes victimes de Dino Scala n'ont pas eu la force de venir ici à Douai faire face à leur agresseur. Celles présentes redoutent d'ailleurs le moment où elles viendront raconter à la barre les viols et les agressions qu'elles ont subies. Alors pour les soutenir, trois psychologues se tiennent à leur disposition au tribunal. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
Également dans l'actualité judiciaire, l'adolescent soupçonné d'avoir tué sa petite amie de 13 ans à Clessé en Saône-et-Loire cette semaine a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier et écroué pour assassinat. Hier était le dernier jour des réquisitions du procès des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. La prison à vie a été requise à l'encontre de Salah Abdeslam par le parquet national antiterroriste, le seul membre encore en vie des commandos qui ont tué 130 personnes.
Allez, direction le sud-ouest maintenant, où il est fortement déconseillé de se baigner ce week-end hors des zones surveillées.
Il y a un risque accru de noyade en raison des forts courants attendus sous l'effet des baïnes. Il s'agit de cuvettes profondes qui se forment entre la plage et les bancs de sable et qui entraînent très rapidement les nageurs au large lorsqu'elles se vident. La préfecture a émis une alerte. Il faut donc rester prudent malgré le beau temps. Martin Guébreau est le préfet délégué pour la défense et la sécurité de Nouvelle-Aquitaine.
Ce qui va être traître ce samedi, c'est que ça va être irrégulier. Il y a des moments où la houle va être un peu moins forte et les gens vont se mettre à l'eau. Il fera très chaud dehors et ce sera très tentant. Et très rapidement, il peut y avoir une surprise par des trains de houle très forts qui arrivent et qui produisent une baïne très puissante, qui emmène les baigneurs jusqu'à 400 mètres au large. Il y a quelques zones surveillées qui ont été mises en place par les maires sur la côte. Nous déconseillons de se baigner dehors à cause de ce risque majeur. Quand on se baigne toujours avec quelqu'un à côté qui peut donner l'alerte s'il y a une difficulté. Et si on est malheureusement pris dans une baïne, il faut se laisser flotter, se laisser ramener vers le bord et surtout pas lutter contre la baïne. Aucun nageur n'y résiste.
Martin Guépreau avec Zoé Pallier pour Europe 1.
Le monde paysan va mal et la Confédération paysanne s'inquiète des conditions de vie des agriculteurs.
Leurs revenus sont trop faibles et ne leur permettent pas de vivre décemment. C'est pourquoi depuis plusieurs semaines, des mobilisations sont organisées un peu partout en France. Charles Guyard est allé à la rencontre de ces agriculteurs en difficulté à Chantepie, près de Rennes.
Alors moi, être paysan aujourd'hui, c'est vivre de la terre, vivre de sa production.
Vivre sa passion, voilà l'image que Frédéric Le Sueur se fait de son métier. Il est producteur de légumes depuis 5 ans dans la région rennaise, mais sur le plan financier, il est loin justement d'en vivre décemment.
S'il y a un truc qui devrait me faire arrêter, ce serait ça. Je vis avec moins de 800 euros par mois, sous le seuil de pauvreté en fait.
Et cet exploitant n'est pas un cas isolé. Un agriculteur sur 5 en France peine à s'en sortir en temps normal. Mais alors quand les aléas climatiques s'en mêlent, c'est encore pire. Il y a une semaine, une violente tempête de grêle s'est abattue sur le secteur.
Ça a été très dévastateur. En fait, on a eu 50 mm d'eau en 20 minutes, une demi-heure. On n'est pas couvert par les calamités agricoles. La grêle n'est pas prise en compte. Donc on touchera à rien si jamais on ne se mobilise pas, en fait.
Et des mobilisations sont d'ailleurs organisées un peu partout depuis quelques semaines pour réclamer des mesures en faveur du monde paysan. Des mesures concrètes et simples, comme par exemple donner aux producteurs un accès prioritaire au marché des villes. C'est du ressort des mairies. Aujourd'hui, en moyenne en France, seuls 16% des étals sont consacrés à de la vente directe.
On est plein à ne pas trouver ça normal de ne pas gagner sa vie en étant paysan.
Chantepie Charles Guyard, Europe 1.
On passe au sport.
Tous les sports et sur Europe 1.
Et on commence avec les 24 heures du Mans. Le coup d'envoi a été donné il y a un peu plus de 3 heures à présent.
62 voitures sont engagées pour cette 90e édition où les hypercars Toyota sont largement favorites face à Alpine et à la marque américaine Glickenhaus. Mais Peugeot s'apprête à faire son grand retour en endurance après plus de 10 ans d'absence avec la Peugeot 9X8. Axel May.
Ce qui frappe au premier regard, c'est l'absence de grand aileron à l'arrière de la Peugeot 9X8. Olivier Jansoni est le directeur technique du programme Endurance de la marque Olion.
Le fait d'enlever l'aileron arrière nous permet de simplifier un petit peu le design de la voiture sur sa partie arrière. Davantage d'ailleurs pour de la mécanique que réellement pour de l'aérodynamique. C'est un choix qu'on a porté depuis quasiment le début du projet. On s'était laissé des portes de sortie au fil du projet pour revenir en arrière éventuellement si on avait découvert, notamment au moment des essais pistes, un problème. Aujourd'hui, avec le retour kilométrique qu'on a en piste, on n'a pas décelé de problème important et donc on continue avec cette solution-là et cette solution-là qu'on est en train d'homologuer.
Alors la Peugeot 9X8 est une 4 roues motrices, un moteur thermique conventionnel à essence propulse le train arrière. Les roues avant, elles, sont entraînées par un moteur électrique dont la batterie se recharge lors des phases de freinage. Cette voiture futuriste, créée selon la nouvelle réglementation du championnat du monde d'endurance, fera sa première apparition en course dans un mois en Italie, à Monza. Le public du Mans devra lui patienter encore un an pour la voir rouler et peut-être succéder à la 908, dernière Peugeot, vainqueur des 24 heures, c'était il y a plus de 10 ans.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et les pilotes vont se relayer en piste jusqu'à demain 16h.
Allez, on passe au football et on parle transfert.
Oui, notez l'arrivée du milieu de terrain français de Monaco, Aurélien Tchouaméni au Real Madrid pour 6 saisons. L'annonce a été officialisée dans l'après-midi. Autre info foot et côté terrain cette fois, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez quittent le rassemblement de l'équipe de France. Ils déclarent forfait en raison de blessures pour le match France-Croatie de lundi qui compte pour la Ligue des Nations.
Et le football, il en sera question ce soir dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Céline, absolument. Du football ce soir avec deux entrées. La première, on revient sur l'information révélée par le service des sports hier soir et les contacts établis entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. On continue de débattre avec deux écoles qui s'affrontent. La première, qui est le vœu depuis très longtemps d'ailleurs du Qatar, le propriétaire du Paris Saint-Germain, d'acquérir, de faire venir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et puis Luis Campos, le nouvel homme fort, le patron du foot, désormais le portugais qui lui préférerait que ce soit Christophe Galtier. Vous constaterez quand même que ce sont deux natifs de Marseille que souhaite faire venir le Paris Saint-Germain, donc un Marseillais qui serait la tête de Marseille, c'est un petit peu paradoxal et contrasté. Lequel sera à la tête de l'OM, on en parlera ce soir. Et puis on reviendra aussi sur le match de l'équipe de France hier avant France-Croatie, ce match nul contre l'équipe d'Autriche avec heureusement un but de Kylian Mbappé. Avec deux questions, la première, fallait-il mettre Mbappé sous cloche parce qu'il était un tout petit peu blessé? Et vous comprendrez avec tous les enjeux, notamment du PSG, de l'équipe de France, si Mbappé se blesse, ça serait une affaire d'État. Et puis autre chose, Antoine Griezmann qui a longtemps été le leader technique de cette équipe de France, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est son cousin qui joue parfois sur son terrain. On se demandera si Griezmann peut redevenir Griezmann.
Et si Griezmann a un cousin surtout.
Il en a plusieurs.
Plusieurs qui jouent.
Merci Lionel Rousseau et Europe 1 Sport, c'est donc à partir de 20h.
Merci beaucoup Sophie. Tout de suite la météo. Bonsoir Marlène Duret. Nouvelle vague de chaleur demain.
Et oui, 34 à 36 degrés relevés aujourd'hui dans le sud-est et 35 à 37 attendus encore demain du Languedoc au Var et jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Ces fortes chaleurs vont a priori se poursuivre pendant au moins une semaine. À partir de mardi, on nous dit que les températures vont monter d'un cran dans le sud-ouest. Et puis entre mercredi et vendredi, la chaleur va remonter jusque dans le nord du pays. On prévoit plus de 30 degrés de maximale. Et samedi prochain, eh bien on pourrait dépasser les 35 degrés aussi bien au nord qu'au sud. En tout cas, demain, les températures seront sensiblement équivalentes à celles d'aujourd'hui. Côté ciel, après une belle matinée, le bleu du ciel laissera place à un temps un peu plus instable du sud-ouest aux frontières de l'est, avec parfois une petite averse localement orageuse sur le relief des Pyrénées et du Massif central, puis un ciel simplement voilé en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Alpes.
Merci Marlène Duret. Allez, ne bougez pas, on reste ensemble jusqu'à 20h. On décrypte l'actualité, les tendances dans quelques instants. Tiens, on va parler de notre école française. Est-ce que l'on fabrique des crétins? On va se poser la question. Et puis l'univers des crypto-monnaies, ça bouge. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.
Allez, Europe Soir Weekend jusqu'à 20h. Et dans cette deuxième heure, nous parlerons de la crypto-monnaie qui entre petit à petit dans l'économie de notre quotidien. Mais tout de suite, j'accueille Jean-Paul Brighelli, normalien agrégé de lettres, enseignant pendant 45 ans en collège, lycée, puis classe préparatoire. Bonsoir Jean-Paul Brighelli.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Vous venez de publier « La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire » aux éditions de l'Archipel. Votre livre appuie vraiment là où ça fait mal. Vous dites « Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. En nivelant vers le bas, notre école a réussi à détruire ce que la France avait mis 200 ans à élaborer. » Sur quel marqueur vous vous appuyez pour établir un constat aussi désastreux ?
Bah écoutez, vous avez des marqueurs internationaux, par exemple les classements PISA, TIMSS pour les maths, etc., dans lesquels nous reculons de façon permanente depuis maintenant 20 ans. Nous sommes actuellement entre la 25e et la 35e place, très loin des pays du sud-est asiatique, Singapour, Shanghai, etc. Très loin même de la Russie, très loin des pays scandinaves, très loin même de l'Allemagne ou du Luxembourg. Nous avons régressé d'une façon absolument spectaculaire.
À qui la faute ?
Alors disons, d'une façon ou d'une autre, on a cessé de s'intéresser à l'éducation en France. On a estimé que ce qu'il fallait, c'était former 10% d'élites. Ça, on les a, il n'y a pas de problème, même si le niveau même des élites est en train de baisser sérieusement. Par exemple, nous n'avons plus aucun gagnant dans les Olympiades de mathématiques depuis près de 15 ans.
Ah oui.
Bon, mais et en même temps, avec ces 10% d'élites, le protocole de Lisbonne, c'est un texte totalement officiel datant de 1999-2000, a décrété que pour 90% de la population, un tout petit niveau permettant de survivre, en quelque sorte, de mériter un SMIG pas même amélioré, voire un salaire universel, ça allait très bien parce que ça permettrait d'avoir des consommateurs, et j'insiste sur la première syllabe du mot, parce que c'est comme ça que ça a été pensé, c'est-à-dire des gens qui seront ubérisés des pieds à la tête et qui n'auront même pas les ressources psychiques pour protester.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que le problème, évidemment, est profond, c'est ce que vous dites tout à fait dans votre livre. Il y a le problème de la mixité sociale, du nivellement vers le bas, le contrôle continu qui compte désormais à 40% dans la note finale du bac. Enfin, il y a un ensemble de choses qui, au départ, partent d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'on a voulu faire une école accessible à tous. Et voilà, en enlevant les marqueurs, les examens, les contrôles, les sanctions, voilà, est-ce que voilà, le bac aujourd'hui, vous voyez, je le disais, 40% de la note est déjà en contrôle continu, donc il n'y a plus l'examen final qu'on attendait. Le bac a énormément perdu de valeur également.
Ça fait bien 7 ou 8 ans que, personnellement, je milite pour la suppression du bac et sa transformation en certificat de fin d'études, qu'on donnerait à tout le monde, et puis on laisse l'enseignement supérieur se dépatouiller avec les gens qui arriveront. De toute façon, on n'allait pas très loin. Les scores actuels, c'est 98% de réussite. On croirait une élection en Corée du Nord, vous voyez, le bac actuel. Bon, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et je le dis très franchement, ceux qui actuellement disent « oui, mais il faut revenir à l'ancienne formule du bac » sont des rêveurs ou des manipulateurs, parce que personne n'admettrait en France que des élèves de terminale échouent à 25 à 30%, ce qui étaient les chiffres des années 70. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous dites que ça partait d'un bon sentiment. Ben, je ne crois pas. Je crois que ça partait d'un calcul très cynique qui était qu'on n'en avait rien à faire de monter les élèves au plus haut de leurs capacités, ce qui est l'objectif d'un enseignement cohérent, on s'en fichait. Ce que l'on voulait, c'était que les enfants de l'oligarchie au pouvoir remplacent leur père et mère. Mmh. Voilà. Et ça, c'est tout à fait acquis. C'est-à-dire, vous avez des livres entiers là-dessus, ce que l'on voit actuellement, c'est les fils et filles d'eux. Vous savez, oui. Comme on dit, c'est-à-dire les gens qui sont passés par... Allez, on va pas se fâcher, hein. Stanislas, l'école alsacienne, Henri IV, Louis le Grand, quelques autres lycées, quelques-uns en province, ça, en tout une quinzaine d'établissements privés ou publics, ça n'a aucune espèce d'importance, dans lesquels s'auto-recrute oui. l'élite. L'élite autoproclamée. Il faut bien comprendre que c'est tout le sens d'ailleurs de la réforme Affelnet qu'il y a eu sur Paris. Si on met des élèves normaux dans des établissements un peu exigeants, ces élèves normaux ont d'excellents résultats. Ce n'est pas la peine d'habiter le 5e arrondissement à 13 000 euros le mètre carré pour aller au lycée Henri IV.
Oui, mais vous avez vu qu'ils ont revu les systèmes de sélection. Maintenant, ils ne peuvent plus faire la sélection sur dossier à Henri IV et Louis le Grand. Justement, on leur a demandé d'ouvrir les quotas à plus de candidats parisiens.
Oui, justement, voilà. Je soutiens tout à fait la réforme qui a été lancée par le rectorat de Paris, parce que c'était totalement aberrant. C'est-à-dire que, je suis enseignant depuis toujours, hein, si je puis dire, le rôle d'un enseignant, c'est de prendre un élève lambda, celui qu'on lui donne, pas de le sélectionner avant, et de l'amener au plus haut de ses capacités. Et au plus haut de ses capacités, croyez-moi, qu'il sorte de la cuisse de Jupiter ou de la rue, il y a toujours la même proportion d'élèves susceptibles d'être très bons.
Alors toujours. Jean-Paul Brigoli, l'auteur, donc, je le rappelle, hein, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel, votre solution pour sauver l'école, est-ce que c'est encore possible ou on va dans le mur?
On est dans le mur.
Oui, on est dans le mur. Hein. On y est déjà, d'accord. Tout le monde, comme ça, c'est fait.
Tout le monde dit l'école est à deux vitesses. Mais bien sûr que l'école est à deux vitesses. Il y a une école pour les riches et une école pour les pauvres. Bon, la seule solution, c'est de sortir. Mais alors, ça va prendre du temps. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un ministre est nommé au maximum pour 5 ans. Hein. Jean-Michel Blanquer a battu tous les records, 5 ans. Alors qu'une réforme va prendre 15 ans. Voilà, et j'attends.
Le projet d'école ministre. Nouvelle prôné par Emmanuel Macron, qui veut élargir à tout le territoire, avec Pape Ndiaye, donc nouveau ministre de l'Éducation.
Ça tient, vu la façon dont ça s'est passé à Marseille, où j'habite, hein, et où il est venu plaider son idée il y a quelques jours, ça tient un peu du gadget quand même, parce que il y a une volonté de modifier le recrutement, alors même que le problème actuellement, on le sait depuis ces jours-ci, là, le problème même, c'est d'avoir des candidats pour enseigner. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une telle désaffection vis-à-vis du métier, non seulement à cause des salaires, mais à cause des conditions dans lesquelles on travaille, que plus personne ne veut faire ce
métier.
Ça
ne fait plus rêver, ça c'est sûr. Ça
ne fait plus un métier de seigneur, hein. Métier qui peut faire rêver. Bon, mais qui, dans ses réalisations pratiques, est très difficilement tenable.
Il y a un job dating aussi qui est organisé, vous avez vu, dans plusieurs rectorats, pour essayer de recruter des professeurs. Alors, je ne sais pas ce qu'on doit en penser.
Est-ce que vous avez essayé vous-même, dans votre vie amoureuse, de faire du speed dating?
Non, absolument pas.
C'est à peu près aussi sérieux, vous voyez, de faire du job dating pour l'enseignement, c'est-à-dire déterminer en 20 minutes si, en début septembre, vous serez ou vous ne serez pas devant 30 élèves dont vous ne savez rien pour enseigner une matière dont 9 fois sur 10, vous ne savez pas grand-chose.
Donc pour vous, c'est quoi? C'est encore...
C'est une vision court-termiste. Colmatage. On essaie de combler les vides, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un vide, c'est un gouffre qu'il faut fonder.
Donc pour vous, vous réformez, vous faites quoi? Alors vous essayez de rendre plus attractif le métier d'enseignant, ça va être compliqué aussi.
Alors on peut essayer de faire ça, mais ça voudrait dire qu'il faudrait reprendre les choses à la base à bac plus 1, en quelque sorte. Ça a existé autrefois d'ailleurs. Il y avait des concours de recrutement très tôt. On peut modifier les concours qui actuellement se passent à bac plus 5, ce qui dissuade tous les candidats qui ont peu de moyens pour vivre. C'est très long, hein, 5 ans d'études que vous devez vous payer totalement. Et pour un résultat très aléatoire, finalement. On peut décider de recruter véritablement sur de vraies compétences et non pas sur des billevesées pédagogiques, hein, comme
oui.
L'impose les INSPE, ex-SP, ex-UFM, etc. Il y a toute une série de mesures que l'on peut prendre effectivement. Maintenant, est-ce que le ministre actuel aura les coulées franches
pour faire
ce genre de...
En tout cas, il a tenté de renouer le dialogue effectivement avec les enseignants. Il a réintroduit les mathématiques, mais en option pour ne pas justement bouleverser les calendriers et bousculer aussi toutes les chefs d'établissement. On le rappelle, un enseignant est un fonctionnaire de catégorie A qui a bac plus 5. Et c'est ce qu'on peut quasiment faire de plus haut. Hein. Et il est payé en moyenne 1000 euros de moins qu'un autre fonctionnaire de catégorie A de l'État. Il y a quand même du boulot encore. Hein.
Mais comme vous dites, c'est pas très incitatif quand même.
Ouais, exactement. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse et pour cet échange, Jean-Paul Brigali. Je rappelle hein, le titre de votre essai, La fabrique des crétins aux éditions de l'Archipel vers l'apocalypse scolaire. Merci beaucoup et bon week-end.
Merci.
Merci. Et vous restez évidemment avec nous dans quelques instants. Tiens, on va s'intéresser à toute autre chose. Les crypto-monnaies qui entrent peu à peu dans notre quotidien avec des spécialistes justement. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Céline Géraud.
Allez, on est de retour en direct dans le studio d'Europe 1. Jusqu'à 20h, on décrypte l'actualité et sur tous les fronts. Et ce soir, j'avais très envie de vous amener dans l'univers des crypto-monnaies. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis mercredi, il est possible pour les clients du centre commercial parisien Beaugrenelle de payer leurs courses en crypto-monnaie via une carte d'achat. C'est une première en France et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les utilisateurs de crypto-monnaie, ça veut dire beaucoup. Et pour en parler, j'accueille ce soir Philippe Erlin, économiste, chercheur en finance et spécialiste des questions monétaires. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous avez récemment publié un guide pratique Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Bonjour, bonsoir Emmanuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse, la première crypto-banque européenne.
Bonsoir.
Bienvenue à bord. Et Damien Patureau, le fondateur de l'application Lizzy, qui permet justement de convertir ces crypto-monnaies en bons d'achat. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Alors pour planter le décor, je commence par un indicateur. C'est une étude réalisée en janvier par un cabinet de conseil qui révèle que 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Parmi eux, les jeunes sont surreprésentés. 12% des moins de 35 ans ont déjà acheté des cryptos. Mais le plus simple finalement pour les auditeurs qui entendent parler de ce phénomène et qui ne maîtrisent pas tout, les codes hein, comme vous, nous allons peut-être déjà leur expliquer en quelques mots ce qu'est une crypto-monnaie. Philippe Erlin.
Oui, très simplement, le Bitcoin, pour prendre la première, la plus importante, c'est une monnaie qui est décentralisée. L'euro, c'est une monnaie qui est centralisée. C'est la Banque Centrale Européenne qui décide du taux d'intérêt, qui décide éventuellement de faire de la planche à billets, comme on l'a vu récemment. C'est aussi pour ça qu'on a un peu d'inflation. Alors que le Bitcoin, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut changer la règle de départ qui est qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. On est à 19 millions aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des règles qui sont fixées et on ne peut pas couper Bitcoin. Il n'est pas sur un serveur, il est dupliqué sur des milliers de serveurs. Voilà. Donc c'est ça qui lui donne son indépendance et sa force aussi.
Et une blockchain ?
Alors la blockchain, c'est justement ce qui permet aux transactions de circuler. Voilà.
D'accord, très bien, c'est beaucoup plus clair. Revenons maintenant à l'actualité. Donc il est désormais possible de payer, je le disais, ses achats en crypto-monnaie dans un centre commercial français, dans le 15e arrondissement, Beaugrenelle, hein, pour ne pas le citer. C'est une petite révolution. Et dans l'univers des transactions monétaires, Damien Patureau, vous êtes le fondateur de cette application qui permet ses achats. Comment ça marche ?
C'est assez simple. Hein. Pour un utilisateur, il suffit de télécharger le wallet, faire les quelques vérifications d'identité obligatoires, évidemment, créditer son wallet, soit en achetant directement son premier Bitcoin, soit en transférant d'un wallet à un autre des crypto-assets, et de venir directement sur notre pop-up pour acheter une carte cadeau via l'opération que nous avons aujourd'hui avec Beaugrenelle.
Donc pour faire simple, on télécharge cette carte en Bitcoin qui sont convertis en euros et on paye finalement en euros.
Alors, ce n'est pas exactement ça. Finalement, l'utilisateur qui a déjà des cryptos va venir payer avec l'asset de son choix. Si on prend l'exemple tout à l'heure du Bitcoin,
on va peut-être le simplifier.
La crypto de son choix,
voilà,
tout simplement.
Choix.
Donc on va prendre l'exemple de Bitcoin. Je saisis dans l'application le montant, 20 euros. On va faire une conversion automatique avec Bitcoin, tout simplement. On valide la transaction. On va aller derrière faire une carte cadeau abondée de 10%, tout simplement.
Et alors, les premiers retours, justement, vous avez lancé ça mercredi. Est-ce que vous avez un chiffre? Combien de clients ont déjà procédé à cette transaction en magasin?
Alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un engouement absolument phénoménal.
Ah bon?
Notamment du côté B2B, les marques du centre commercial. On a été très approchés, finalement, puisqu'il y a une vraie demande au niveau de cette acceptation-là, au niveau du paiement en crypto-monnaie. Donc, très, très positif. On a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter aussi pour avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est aussi éducatif et c'est la volonté qu'on a aussi dans ce côté démocratisation des cryptos, tout simplement.
Manuel Valente, est-ce que cette innovation qui permet donc aux crypto-monnaies de rentrer un peu plus dans nos vies vous inspire ?
Bien sûr, on est toujours extrêmement intéressé par toutes les nouvelles innovations qui sortent sur le marché et qui permettent au plus grand nombre d'accéder à ce marché, à la fois sur tout ce qui est moyen de paiement, comme on le voit aujourd'hui, mais également sur tout ce qui est investissement. Donc, tout est bon à prendre pour démocratiser l'usage des crypto-monnaies au quotidien.
Et vous avez l'impression que les lignes bougent en ce moment ?
Très clairement. Alors que jusqu'en 2017-2018, le marché des crypto-actifs, ça a resté quelque chose de relativement confidentiel avec un certain nombre de gens qui étaient des spécialistes de la question et qui s'amusaient à s'envoyer des bitcoins les uns aux autres. Aujourd'hui, ça a non seulement atteint le monde des institutionnels de la bourse, notamment américaine, mais aussi, on le voit, tout le quotidien de chacun est en train d'être bouleversé.
Philippe Erlin, est-ce que la blockchain dont vous parliez tout à l'heure sera bientôt une composante incontournable de l'écosystème financier et retail, c'est-à-dire de toutes les activités de commerce de détail?
Oui, c'est-à-dire ça va être utilisé. Ce qu'on constate dans les pays émergents, il y a une utilisation du Bitcoin quand ils font face à une inflation ou un contrôle de l'échange ou que la monnaie est très instable. Donc ça se développe comme monnaie de transaction, c'est-à-dire que le Bitcoin devient une planche de salut par rapport à des monnaies qui connaissent des problèmes. En Europe, on n'a pas ce problème-là, on a de l'inflation, mais on a une monnaie qui est quand même encore stable. Donc en Europe, c'est plutôt un placement, le Bitcoin.
Alors voilà. Salvador,
Argentine ouais. ou Turquie, ouais. voilà. En Europe, aux États-Unis, ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt un placement, c'est-à-dire que les gens, par rapport au Bitcoin, c'est plutôt comme placement financier plutôt que monnaie de transaction. Mais ça commence à se développer. Justement, on le voit avec le centre Beaugrenelle. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Voilà.
Ouais, vous avez l'impression qu'il y a une appétence pour cette crypto-monnaie qui concerne surtout les moins de 35 ans, finalement. Il y a encore une frilosité de la part des adultes. Là, j'allais dire, les jeunes adultes, ils vont tous, ou alors sont curieux, mais il y a encore un blocage.
Voilà, c'est beaucoup une affaire de génération. Et je pense pour la nouvelle génération, c'est aussi le fait de payer, c'est aussi une fête de s'approprier la monnaie. Parce que le fait d'acheter des bitcoins, de les mettre de côté, de les oublier, bon. Ça peut se faire, mais le fait de l'utiliser concrètement, mais si c'est des montants qui sont symboliques, bah c'est une façon de comprendre comment ça marche. C'est une façon de fonctionner autrement qu'avec l'euro. Et je pense que les nouvelles générations, elles sont attachées à ça. Voilà.
Ouais, Damien Patureau, vous avez fait ce constat aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, en effet, on était sur les...
Fondateur d'application Lizzy, je le rappelle, qui permet justement d'acheter cette carte d'achat pour payer en crypto-monnaie.
Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'en effet, on était sur l'expérience terrain, pour le coup, sur Beaugrenelle, sur ces quelques jours d'exploitation qu'on a eus. C'est qu'en effet, on avait une cible qu'on pensait être plutôt très jeune. Mais la petite histoire, c'est que pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu un papy de 80 ans qui est venu me voir pour me demander comment je peux acheter un bitcoin. Et ça, je trouve que c'est une super histoire. Il avait son adresse de wallet, il avait déjà tout. Donc je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est en marche aujourd'hui.
Il a acheté un bitcoin ou pas?
Alors, il pensait qu'on était un bureau de change. Donc bon, forcément, j'ai pas pu l'accompagner jusqu'au bout. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de ça.
Alors, il y a effectivement beaucoup de volatilité, on l'a dit, de risques aussi. Hein. Le marché des cryptos a été évalué à près de 3 000 milliards de dollars à son sommet en novembre. Mais il y a eu un crypto crash en avril. Alors, combien vaut-il aujourd'hui, Manuel Valente ?
Aujourd'hui, le Bitcoin est aux alentours de 30 000 dollars. Il a effectivement beaucoup baissé au plus fort. C'est-à-dire, en novembre dernier, il était à 69 000 dollars. Et vous avez raison, c'est un marché qui a toujours été extrêmement volatile, avec des hausses très très brutales et des baisses tout aussi brutales. Bon, bah, c'est quelque chose dont on prend l'habitude, mais ça représente également quelque chose d'intéressant parce que c'est là où on a des opportunités éventuelles pour pouvoir faire des investissements intéressants.
Et vos clients, alors quel est le profil type d'un client de la Coin House, qui est donc la première banque européenne de crypto-monnaie ?
Ben, exactement comme l'exemple qui vient d'être cité, on a des gens de toutes les générations, de 18 jusqu'à 80 ans. On a surtout un public qui est majoritairement masculin, qui reste encore majoritairement masculin malheureusement, mais qui se démocratise. Et on a vraiment des gens de toutes les couches sociales, et de tous les âges qui s'intéressent au monde des crypto-actifs. Et avec un point commun qui est relativement fréquent, c'est le point commun de gens qui se disent qu'ils veulent se réapproprier la façon dont ils veulent investir. Contrairement à des investissements classiques auprès d'une banque qui, elle, aura toujours tendance à choisir des produits types pour vous faire investir. Là, vous avez vraiment le choix de dans quoi vous allez mettre votre capital.
21 crypto-monnaies différentes, c'est ça, Philippe Erlin, aujourd'hui des crypto-monnaies, pardon.
C'est limité à 21 millions de bitcoins. Oui. Mais le nombre de crypto-monnaies est énorme, il y a des opportunités énormes. Maintenant, bon, les principales, Bitcoin et Ethereum, sont vraiment les principales et c'est celles qu'il faut, je dirais, privilégier si on investit.
Parce que c'est les plus anciennes, c'est celles qui ont le plus, qui sont là depuis longtemps.
Voilà, et puis c'est celles qui ont su faire la preuve de leur utilité, de leur efficacité. C'est-à-dire le Bitcoin, on sait que c'est un très bon moyen de placement. Alors, tout à l'heure, on parlait de volatilité. C'est volatile, mais quand on prend sur la longue durée, ça monte. Hein. Et moi, je dis, si vous investissez dans Bitcoin, prenez un horizon de placement de 3-4 ans minimum. Et là, serez gagnant. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Si vous investissez pour 6 mois, vous ferez peut-être gagnant, vous allez peut-être perdre beaucoup aussi. Donc c'est risqué. Mais mettez de l'argent dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin sur 3-4 ans. Et là, sur le Bitcoin et Ethereum, vous serez gagnant. Il n'y a pas de problème. Donc il faut comprendre ça. À chaque fois qu'on investit, il faut comprendre le produit dans lequel on investit. Ça, c'est fondamental. Donc le Bitcoin, il faut passer un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Et après, on va se rendre compte que c'est un placement vraiment intéressant. Surtout dans le cadre actuel où l'inflation revient. On le voit en Europe, aux États-Unis. Le Bitcoin, lui, il n'y aura jamais de planche à billets. Hein. Ce sera 21 millions, point barre, ça ne bougera pas. Donc, c'est un produit anti-inflationniste. Donc, moi, je dis à long terme, c'est une bonne façon de protéger son épargne. Et c'est accessible à tout le monde parce que l'immobilier aussi, ça permet de se protéger contre la hausse des prix. L'immobilier monte. Mais pour acheter un bien immobilier, il faut mettre une somme au départ assez importante et ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors que Bitcoin, n'importe qui, on peut mettre 1 000 euros en Bitcoin et c'est bon, quoi. Voilà.
Et les gens qui achètent justement cette carte d'achat, là, la première en France, on le rappelle, dans un centre commercial, ils ont justement l'intention justement de faire un placement, de s'intéresser, ou c'est juste un achat coup de cœur pour voir, jouer pour voir ?
Non, il y a un peu tous les profils. Il y a le crypto-enthousiaste qui, lui, a déjà des cryptos et pour le coup, veut un nouvel usage. Et du coup, on lui donne accès à un nouvel usage. Il y a celui qui est un peu indécis, qui a entendu parler de ce truc qui s'appelle Bitcoin, etc., avec toutes ces histoires qu'on entend et qui, lui, voudrait rentrer aussi sur ce marché-là pour faire de l'investissement, etc. Et après, on a l'habitude d'en parler, mais nous, notre troisième étage, c'est Madame Michu, c'est vraiment la dernière. Et ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que notre victoire à nous, elle sera quand Madame Michu pourra acheter son pain au chocolat avec une fraction de Satoshi, par exemple.
Voilà. Satoshi,
c'est une fraction de Bitcoin.
Je crois qu'on va la reprendre, la phrase. Madame Michu a-t-elle utilisé une fraction de Satoshi pour acheter sa baguette de pain ? Vous restez ensemble, évidemment, jusqu'à 20h. On parle dans quelques instants, justement, de cette crypto-monnaie, de cet univers pas si fermé que ça, qui s'ouvre peu à peu. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Céline Géraud.
Allez, jusqu'à 20h, on parle des crypto-monnaies avec Damien Patureau, fondateur de l'application Lizzy, qui permet justement d'acheter depuis mercredi, faire ses courses avec une carte d'achat. On est avec Manuel Valente, fondateur de la banque CoinHouse, première banque européenne de crypto-monnaies, et Philippe Erlin, l'économiste spécialiste des questions monétaires. Tiens, je vais vous faire une référence à Christine Lagarde, qui effectivement s'est exprimée cette semaine à propos justement des crypto-monnaies. Elle dit qu'ils ne sont basés sur rien, ils ne se rattachent à aucun actif sous-jacent qui pourrait apporter de la sécurité. Que répondez-vous à ça, Philippe ?
C'est un mensonge. Le problème, c'est que ça montre une mauvaise compréhension du Bitcoin. Et ça, c'est quand même gênant pour quand on est la directrice de la Banque Centrale Européenne. Le Bitcoin a une valeur intrinsèque. C'est un système de paiement qui fonctionne depuis le 3 janvier 2009, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, pour des frais de transaction qui sont extrêmement bas. Vous voyez de l'argent à l'autre bout du monde, instantanément, avec des frais très faibles. Il n'y a aucun autre système de paiement qui permet ça. Et puis, il y a aussi le fait, on a parlé de la blockchain tout à l'heure. Donc, la blockchain, ça sert à faire les virements. On peut aussi construire des services financiers dessus. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer là-dessus. Et je termine, la troisième chose, comme je disais tout à l'heure, c'est limité à 21 millions. Donc, c'est une ressource rare. Donc ça confère de la valeur au Bitcoin. Il faut bien comprendre ça.
Mais là, on parle de sécurité, en fait. C'était surtout sur la sécurité, en fait.
Ah, mais la sécurité, il y a aussi la sécurité, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de faux bitcoins qui sont rentrés dans le système bitcoin. Alors, des faux euros, ça circule, on sait. Mais il faudrait retourner à la question sur quoi et qu'est-ce qui fonde la valeur de l'euro.
Quand bah, on regarde il y a le projet d'euro numérique hein, que vous n'ignorez pas, porté justement par la Banque Centrale Européenne. Cette monnaie numérique, elle est attendue en 2025 si les premières expérimentations sont concluantes. Et il y aura un prototype en 2023 pour la tester. Est-ce que les deux monnaies peuvent cohabiter d'ailleurs, l'euro numérique et cette monnaie, cette crypto-monnaie, Manuel Valente?
Absolument. On n'aurait aucun problème à fonctionner en parallèle avec du Bitcoin et avec de l'euro, dans la mesure où le jour où on aura des euros numériques dans la poche, et ben ces euros ils vaudront la même valeur qu'un euro classique. Et donc, ils seront dits stables. On parle souvent, notamment dans le monde des cryptoactifs, de stablecoin pour des crypto-monnaies qui ont un cours stable par rapport à un sous-jacent qui peut être de l'euro, du dollar ou autre. Alors que le Bitcoin, lui, il est volatile. Et donc, le Bitcoin, lui, il a beaucoup plus d'intérêt en tant que véhicule d'épargne. On parle souvent, en parlant du Bitcoin, d'or numérique, à cause justement de ce que Philippe Erlin disait tout à l'heure à propos de la rareté intrinsèque des Bitcoins. Et donc, c'est beaucoup plus un véhicule d'investissement plutôt qu'une monnaie classique telle que de l'euro. Donc, les deux pourraient très, très bien cohabiter.
Et il y a une position très ferme aussi de Paul Krugman, un prix Nobel d'économie en 2008, qui affirme, lui, que les crypto-monnaies sont surévaluées, qu'elles vont se casser la figure, n'hésitant pas à les comparer à la bulle immobilière américaine des années 2000, qui avait débouché, on s'en souvient, sur la crise financière de 2008. Damien,
Nous, aujourd'hui, on construit en fait de l'infrastructure technologique autour du service. Donc, nous, si vous voulez, on porte peu d'attention en fait
à tout ça.
Tout ça. Mmh. Pourquoi ? Parce que nous, on a une position long terme. Vous en parliez tout à l'heure à juste titre. Si on regarde en fait l'évolution des crypto-monnaies à date sur un train de 10 ans, c'est positif en fait. Et au contraire, aujourd'hui, tout ce qui se passe en France nous donne raison et partout dans le monde. Hein, 8 à 10% des Français aujourd'hui ont de la crypto.
Oui.
C'est un fait. Et ça fait qu'augmenter. Donc, non, aujourd'hui, on
est. Vous pensez que c'est un travail de longue haleine, un marathon, et qu'il faut résister à la tempête.
On est comme quand il y a eu Internet qui a débarqué, etc. On est exactement dans la même phase aujourd'hui. Et quand on regarde les courbes, d'ailleurs, quand Internet est arrivé, on est exactement dans la même phase. Donc, non, ça va se structurer, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Après, il ne faut pas.
Il y a un autre point aussi très intéressant, c'est jusqu'en 2020, vous aviez à peu près les mêmes messages qui étaient donnés par les gens des institutionnels des marchés financiers classiques. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, des gens comme Goldman Sachs, des gens comme JP Morgan ou BlackRock ont tous créé des produits autour des cryptos. Donc, eux, ils ont compris comment ça fonctionnait. Bon, bah, on peut juste attendre que Mme Lagarde ou M. Krugman réussissent à réaliser ça également.
Philippe Erlin.
Et Paul Krugman, c'est quelqu'un qui, depuis des années, défend la dépense publique, le déficit budgétaire, soi-disant pour soutenir l'activité. Et on voit aujourd'hui qu'on le paye, parce que c'est ça qui a provoqué la planche à billets des banques centrales, et maintenant l'inflation. Donc Paul Krugman, il fait partie des économistes, des autorités monétaires, qui sont responsables de l'inflation d'aujourd'hui. Mmh. Et l'inflation, ça veut dire que la monnaie se dévalue. Si vous avez 10% d'inflation, ça veut dire que l'euro perd 10% de sa valeur par rapport à un litre d'essence, par rapport à un paquet de pâtes. C'est ça que ça veut dire.
Oui.
La monnaie perd sa valeur. Donc Paul Krugman, non seulement il ne comprend pas le Bitcoin, mais en plus il a détruit la monnaie, le dollar et les monnaies classiques. Donc il ferait bien de reprendre ses cours d'économie. Quoi.
Il est prix Nobel, on le rappelle, en 2008.
Mais
il fait référence aussi au crypto crash. Il y en a eu un là, on en a parlé, il y en aura sans doute d'autres. Enfin, je ne sais pas, comment est-ce que vous visualisez la courbe ascensionnelle de ces crypto-monnaies.
Mais il faut voir ça à long terme. Alors ceux qui sont traders, évidemment, ils peuvent éventuellement profiter, mais c'est quand même très risqué, je ne le conseille pas vraiment. Mais je dis, il faut acheter à long terme, et comme ça, vous êtes tranquille. Et vous serez gagnant si vous prenez le cours du Bitcoin sur 4 ans, ou vous mettez une échelle de 4 ans, une zone de 4 ans, sur n'importe quel moment du cours du Bitcoin, vous êtes gagnant. Voilà, achetez à long terme, et vous serez tranquille.
Donc, en gros, ceux qui les ont achetés au début, où il était à plus de 60 000 euros, il ne faut pas qu'ils s'affolent, ça va remonter.
Il ne faut pas qu'ils s'affolent, ils gardent, et on dépassera les 60 000 euros dans un an, ou deux, ou trois, ou quatre, ça c'est sûr.
Manuel
Valente. Juste un chiffre. Sur la décennie 2010-2020, Le cours du Bitcoin a augmenté de 1 million de %. 1 million de %, en fait, vous n'avez aucun actif sur aucun marché financier qui a eu une telle progression sur la décennie ou même sur les années précédentes. Et a priori, il n'y a pas de certitude sur le fait que ça va continuer sur cette lancée, mis à part le fait que la technologie, comme on le disait tout à l'heure, elle est extrêmement solide et que les applications continuent à être développées au quotidien.
Mmh. En 2035, on ne pourra plus acheter de voitures neuves à moteur thermique en Europe, uniquement des voitures électriques, mais on pourra continuer à rouler avec nos vieilles voitures à essence malgré tout. La transition vers le tout électrique, on y va, on est en marche. Quand sera-t-il de vos crypto-monnaies en 2035? Est-ce qu'on aura basculé complètement sur la crypto-monnaie et on continuera à rouler avec de l'euro ou ce sera le contraire? Voilà, je vous pose la question parce que
si l'inflation se met à déraper complètement, peut-être que les gens préféreront utiliser le Bitcoin plutôt que l'euro. Et justement, je disais tout à l'heure, on le voit dans pas mal de pays émergents. Les pays émergents où la monnaie explose, en Argentine, en Turquie, ils sont à 70% d'inflation. Donc comment vous voulez faire des prévisions économiques, comment vous voulez vivre en tant que ménage, en tant qu'entreprise, en tant que commerçant, quand vous avez 70% d'inflation? C'est un scénario qui n'est pas impossible dans la zone euro, parce qu'on a déjà fait la planche à billets pour le Covid. Et là, s'il y a des problèmes avec l'Italie, les taux d'emprunt de l'Italie sont en train de remonter, le secteur bancaire n'est pas très solide, on peut avoir une autre planche à billets de la BCE. Et à ce moment-là, on pourrait vraiment faire décoller l'inflation. Donc c'est une chose qu'on doit avoir à l'esprit. Quoi. Les Libanais, au Liban, toutes les banques ont fermé. Il y a une faillite générale, un effondrement de la livre libanaise. Et les banques ont fermé, les gens ont tout perdu. Voilà. Donc ceux qui ont du Bitcoin, eux, ils sont tranquilles. Quoi. Donc c'est une sécurité à prendre par rapport à l'inflation, par rapport au risque de crise bancaire. Ce qui s'est passé en 2008, ça peut revenir. Voilà, donc moi je dis, soyez prudents. Et le fait d'avoir du Bitcoin, c'est une façon d'arbitrer contre les décisions pas très rationnelles de Christine Lagarde ou de Krugman, ouais, de gens comme ça.
Des gens qui sont quand même installés, qui sont posés, qui ont une analyse, voilà, qui sont...
Mais qui défendent aussi un intérêt. Ils défendent un système bancaire, ils défendent des États qui font du déficit. Parce que pourquoi il y a la planche à billets de la Banque centrale? Parce que la France, notamment, fait beaucoup de déficits budgétaires qu'on est incapable d'équilibrer notre budget. Donc ça, on le paye un jour et on le paye en inflation. Ça, l'histoire le montre. Hein.
Mais au Salvador, par exemple, ils en ont fait leur monnaie... Ils en reviennent un peu?
Non, ils n'en reviennent pas, mais il faut savoir que le Salvador, c'est un cas particulier, ils n'avaient pas de monnaie, eux.
Oui.
Ils utilisaient le dollar. Donc, ils prémettent en plus l'utilisation du Bitcoin, et c'est une façon d'envoyer un signal dans le monde entier, et puis c'est une façon de créer une économie autour du Bitcoin, et ça marche. Alors, tout le monde ne se met pas au Bitcoin du jour au lendemain, mais il y a déjà un gros succès, et il y a un deuxième pays qui a rejoint, qui est la Centrafrique, qui est un des pays les plus pauvres du monde, et bien maintenant, le Bitcoin est accepté comme monnaie maintenant un peu partout dans le pays, et donc voilà, ça marche. Mais il y a aussi des pays qui ne l'ont pas légalisé, où c'est très utilisé, par exemple le Nigeria, parce que la monnaie, la Naira, est très instable, il y a un contrôle des changes, c'est très compliqué. Et beaucoup de gens utilisent le Bitcoin comme monnaie de transaction, là, pour le coup. Parce que même si c'est volatile, ça a quand même plus de valeur que la Naira. Quoi.
Il faut regarder aussi le taux de bancarisation, pour le coup. On parlait du Salvador notamment, mais quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est avant Bitcoin, pour le coup, très peu d'habitants étaient bancarisés, etc. Désormais, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a un pourcentage important de la population qui est désormais bancarisé grâce aux wallets qui a été mis en place, etc. Donc, faut pas non plus dramatiser et dire que tout est mauvais. Au contraire, ça a beaucoup de points positifs, comme vous l'évoquiez.
Après, se pose la question effectivement de la période, de la temporalité dont vous parlez, parce que aujourd'hui, enfin, on va se projeter un peu, mais je parlais de 2035 pour les voitures, mais il y a un climat quand même d'anxiété qui est assez fort, avec un pouvoir d'achat qui baisse, on a un conflit en Ukraine qui s'enlise. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont pas extrêmement excitants, exaltants. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que au-delà des jeunes adultes dont on a parlé, il y a encore un gros travail. Il va falloir être très patient pour que toute la population s'y mette, en tout cas commence à y penser en disant « je vais investir et acheter des crypto-monnaies ».
Il y a plein de choses qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. La première, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des entreprises financières classiques qui aujourd'hui proposent des produits dérivés sur les crypto-monnaies, notamment dans les bourses, à la bourse de New York notamment, ça arrive. Vous avez des moyens de paiement qui sont utilisés au quotidien, on le voit ici avec l'Easy notamment, qui se développe. On peut penser par exemple à tout ce qui est la remittance, c'est-à-dire les gens qui envoient de l'argent à leur pays, les gens immigrés dans les pays européens ou américains qui envoient de l'argent chez eux.
Les transferts bancaires,
Et qui coûtent du coup beaucoup moins cher qu'avec des entreprises comme Western Union ou MoneyGram. On peut penser enfin à des choses si on regarde sur le long terme. Vous avez des gens qui commencent à s'intéresser au fait que les bitcoins et les crypto-monnaies pourraient être utilisées comme réserves dans les banques centrales. Comme, de la même façon qu'aujourd'hui, la Banque de France a des réserves en or, dans ses coffres, elle pourrait très bien avoir également des réserves en bitcoin qui seraient la sécurité et la garantie sur le long terme de la valeur de l'euro, par exemple.
Et pour vous, avec l'application Lizzie, le prochain step, c'est quoi? C'est de le développer,
Nous, aujourd'hui, c'est de fédérer un réseau d'acceptation important. Donc, notre objectif à court terme, c'est de fédérer à peu près un réseau de 10 000 commerçants d'ici fin d'année.
En France, partout, pas qu'à Paris, dans les grandes villes.
Non, exactement.
Vous avez déjà des cibles dans certaines grandes villes françaises
Tout à fait. En fait, on a déjà en pré-commercialisation plus de 1500 points de vente déjà signés, validés. Et là, on est en train de signer des grandes enseignes. Enfin, on sent qu'il y a une vraie appétence, c'est ce que je disais tout à l'heure autour de...
J'ai dit ça pour nos auditeurs qui nous écoutent en région. Quelle est la prochaine région qui sera avec
ça
la...
Ça arrive. Et on n'a pas que des grandes villes, pour le coup. On a aussi des villes intermédiaires.
C'est intéressant. Vous pouvez nous en donner une ce soir sur Europe 1 ou c'est trop tôt ?
Non,
vous
ne
pourrez pas.
Non, pas tout de suite.
Et voilà, très bien. Écoutez, on va attendre. Alors, je vous remercie beaucoup tous. Voilà, prochaine... Pour conclure, Philippe, le Bitcoin, si vous deviez le résumer en une phrase.
Allez-y, parce qu'avec l'inflation, votre épargne va être ratiboisée. Donc posez-vous les bonnes questions maintenant, rapidement. En plus, quand le Bitcoin a un cours un peu massacré en ce moment à 30 000 dollars, c'est le moment de rentrer. Il ne faut pas rentrer quand il est à 60 000. Là, il y a un contexte de crise. Donc allez-y, rentrez, c'est le moment.
Manuel Valente, pour vous, le conseil, vous le banquier.
Nous, chez CoinHouse, le but, c'est de démocratiser l'accès à ce marché. À dire vraiment, ça peut être compliqué technologiquement, mais nous, on sera capable de vous aider et à cacher toute cette complexité pour que ce soit aussi facile que de dire, voilà, j'achète un produit financier classique comme chez une banque.
Oui. Et vous avez combien de clients aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a plus de 400 000 clients.
400 000 dans le monde entier ? En Europe, je veux dire, en toute l'Europe. Voilà, c'est ça. Les pays où vous en avez le plus ?
En France.
En France, d'accord. Et le deuxième pays après ?
Belgique, Suisse.
D'accord, très bien. Merci pour ce podium. Merci Manuel Valente, Damien Patureau et Philippe Erlin. Et crypto-monnaie, voilà, vous êtes désormais incollables, tout comme Lionel Rosso sur le sport, le foot, Zidane, tout ça, et plus encore ce soir.
Et la crypto-monnaie aussi, puis vous savez que Messi, notamment, est payé en grande partie au Paris Saint-Germain en crypto-monnaie. C'est passionnant, c'est un sujet passionnant, on en a parlé dans Europe 1 Sport.
Merci Lionel pour cette info.
Avec grand plaisir. Écoutez, vous êtes la bienvenue à partir de 20h, ma chère Céline, et tous les auditrices et toutes les auditeurs qui nous rejoindront pour notamment revenir sur le match de l'équipe de France hier avec Mbappé blessé mais qui sauve l'équipe de France, match nul contre l'Autriche. Et puis on parlera aussi de Zinedine Zidane, peut-être au Paris Saint-Germain.
Merci Lionel, à tout de suite.